Bonjour, excusez-moi. Donc vous savez que c'est toujours quand on commence à parler que les retardataires arrivent, donc je vais lancer cette journée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de l'espace Pierre Mendès France. Donc juste d'un mot, vous accueillir dans notre établissement pour ce temps d'étude autour de la question de l'animal dans toutes ses dimensions. Simplement vous rappeler deux, trois petites choses sur l'espace Mendès France et puis aussi dire un mot de notre partenariat avec l'Université de Poitiers qui est représentée ce matin par Isabelle Lamotte, ici présente, en charge des questions culturelles au sens très large du terme, la culture scientifique étant, comme le disait sur cette tribune, voici 3-4 ans Yves Quéré, la science est une belle province de la culture. Je trouve que c'est une jolie expression. Alors, simplement d'un mot, vous dire que vous êtes dans un établissement qui est un centre de culture scientifique et technique, labellisé par le ministère de la Recherche, qui a en charge une mission qui est assez large pour être floue et assez floue pour être ouverte à tous, c'est diffuser la culture scientifique auprès du plus grand public et d'un plus large public. Une fois qu'on a dit ça, vous voyez, on a tout dit, on n'a rien dit. Donc depuis quelques années, nous, on a souhaité, au-delà des actions de vulgarisation que nous menons ici, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, parce que je vois des têtes qui mettent les pieds dans cet établissement de temps en temps, sur un large domaine, un large spectre extrêmement éclectique, on va passer des mathématiques au cerveau, du cerveau au climat, du climat au travail de la police scientifique, etc., etc. Et saison après saison, et après une quinzaine d'années, on a monté à peu près 90 thèmes sous forme d'expositions, de conférences, d'animations, etc. Mais en parallèle de tout ça, on a souhaité aller un petit peu plus loin sur les grands thèmes de société pour pouvoir à la fois prendre acte de ce qui se passe au sein de la communauté scientifique, mais également faire ce que j'appelle un acte citoyen en créant les conditions d'un débat pour que la connaissance qui est à un instant T et validée au sein de la communauté scientifique puisse être partagée par toutes et par tous, en partant d'un principe très simple pour moi, c'est que la science, les sciences et les scientifiques sont là pour nous aider à poser des questions et non pas pour apporter des réponses toutes faites. Et je pense que c'est peut-être la différence entre un lieu d'éducation aux sciences et de vulgarisation qui vient apporter un certain nombre de réponses, qui vient donner des éléments de précision sur tel ou tel concept. L'espace Mendès France est devenu au fil du temps un lieu qui organise la question et qui la met en perspective dans un contexte de complexité. D'ailleurs, c'est pas par hasard si Edgar Morin est devenu un peu la figure tutélaire de notre philosophie générale ici dans cet établissement. Edgar Morin qui sera ici pendant 3 jours la semaine prochaine pour nous aider à préparer un certain nombre d'événements avec des amis d'Amérique du Sud, de Russie et d'Afrique qui travaillent sur la complexité, la diffusion de la connaissance. Le deuxième aspect, tout ça ne peut se faire qu'avec l'appui de la communauté scientifique. Au premier rang desquels, moi j'ai mis depuis très très longtemps la présence des scientifiques dans toute l'acception du terme, des sciences les plus, on va dire, dures, aux sciences les plus, on va dire, inexactes, non, des sciences humaines. Donc c'est, les sciences de l'homme et de la société sont très présentes dans nos approches ici. Et avec l'Université de Poitiers, on a un partenariat qui est exemplaire, qui fait référence, parce que souvent, quand les contrats quadriennaux sont évalués ici à Poitiers, les chargés de mission mettent en évidence cet aspect de culture scientifique qui reste unique. Donc, parler des thèmes de société, c'est une chose. S'appuyer sur les personnalités qui, à l'intérieur de la communauté scientifique, font avancer la connaissance, c'est autre chose. Et tout ça, il faut le mettre en perspective. Et le dernier point, c'est que notre maison a un pôle d'histoire des sciences qui est reconnu largement au-delà de nos frontières, puisqu'on a même donné des coups de main à des amis au Québec, récemment aux États-Unis. Voilà. Donc ce pôle d'histoire des sciences que Anne Bonnefoy, ici présente, anime depuis longtemps, en fait, pour objectif tout à la fois, bien sûr, de valoriser l'histoire des sciences en tant que discipline transversale, mais également de valoriser cette notion d'histoire des sciences dans une meilleure compréhension de nos sujets de société. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui rejoint la préoccupation de mieux éclairer à la fois vos questionnements, mais également nos concitoyens. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anne, qui va vous faire un petit topo sur la journée, son déroulé, et puis ce qui va se passer ensuite, avant de laisser la parole à Georges Chapoutier. En fait, on a découvert hier soir qu'on avait dû se découvrir en 92, et je pense que vous étiez un des tout premiers conférenciers à venir dans cet établissement quand je l'ai repris, parce que quand j'ai repris cet établissement, il y avait quelques petites difficultés, et donc c'est un plaisir de boucler une forme de boucle avec vous aussi. Donc bonne journée, l'ensemble des débats sont, sont enregistrés, sont repris. Vous savez que sur le site de l'Espace Mendès France, il y a ce qu'on appelle en français un podcast. C'est-à-dire que de manière générale, vous allez cliquer sur un petit truc et puis vous allez écouter le son des conférences. Je ne sais pas combien on a de conférences, une centaine maintenant. Et donc, si vous êtes amené à vouloir y compris diffuser des choses qui vous ont paru intéressantes, vous pouvez passer ce lien à tout le monde. 2200 interrogations de ce podcast par jour, ce qui est quand même pas mal. Mais je pense que c'est aussi parce que le site est référencé et que les personnalités qui sont référencées sont des personnalités de premier niveau. Donc voilà, donc Anne, je te laisse la parole. Merci à toutes et à tous. La maison est une maison aussi qui est ouverte et en termes d'accueil qui est à votre disposition si vous aviez tel ou tel besoin. Donc vous le dites à Anne et on essaiera de faire attention à vos demandes.
Merci à tous. Merci d'abord à notre directeur Didier Moreau qui parle toujours très gentiment de l'histoire des sciences et des techniques et sciences de l'homme et philosophie des sciences. Et c'est vraiment grâce à lui qu'on peut travailler, que je peux travailler depuis 15 ans sur cette thématique puisque nous sommes le seul centre de culture scientifique en France à avoir cette démarche envers le grand public, à la fois envers le grand public et aussi en partenariat avec l'université en ouvrant nos séminaires qui sont inscrits dans le cursus des étudiants à tous. Donc merci encore monsieur le directeur, j'en profite du micro. Je suis très contente, cette journée est enfin lieu, figurez-vous que je suis assez opportuniste et comme on a organisé déjà des journées d'études avec Isabelle Lamotte, on a pensé à la prochaine thématique, j'ai dit on va travailler sur l'homme et l'animal. Oui, il dit oui, pourquoi pas, etc. Et puis un mois après, elle m'appelle, écoute Anne, c'est une excellente idée. On n'a pas choisi ce thème parce que c'est un thème à la mode, mais parce que on a chacun nos raisons personnelles de choisir des thématiques, j'ose l'avouer, c'est une raison qui est suffisante pour moi. Et donc j'ai eu de la chance de rencontrer Georges Chapoutier, parce qu'on a organisé la journée d'études ensemble, et c'est surtout Georges Chapoutier qui est responsable scientifique de cette journée et qui nous a amené ces personnes qui sont des personnes référentes dans le domaine, puisque j'en parlais à Florence Burga l'autre jour au téléphone. Je pense que c'est important d'inviter des gens qui travaillent depuis longtemps sur la question. C'est très important parce que c'est une question novatrice. Il y a plein de gens peut-être qui peuvent s'y engouffrer aussi parce que c'est intéressant. Mais le fait que vous y travaillez depuis longtemps est une sécurité. Et j'étais d'accord avec Florence. Et c'est vrai que ce programme, je l'attends et j'attends de vous écouter depuis très longtemps. Et j'invite tous les auditeurs à aller voir les ouvrages qui sont à disposition. Là, je fais une petite bibliographie sélective, donc correspondant aux productions éditoriales de nos amis. Vous avez aussi la revue L'Actualité et puis de la revue Actualité que vous pouvez prendre et une autre revue qui m'a été envoyée par le rédacteur de la revue Research. Donc c'est une revue spécialisée. Donc là c'est le thème, c'est humanité et animalité. Donc vous pouvez la prendre, c'est pour vous, il me l'a envoyé par la poste. Voilà, donc j'avais pensé à c'est-à-dire que je vous invite vraiment à lire les livres parce qu'ils sont non seulement intéressants scientifiquement, mais ils sont beaux, ils sont bien écrits. Donc, et on ressent une certaine empathie, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que c'est un sujet d'empathie, mais on ressent une réelle empathie à lire les livres, que ce soit les philosophes, les historiens, les scientifiques. Donc cette lecture est vraiment très, très, très productive. Moi, je suis sortie très chamboulée de cette lecture. Et il y avait certains passages, mais je ne vous lirai pas tous les passages. Donc j'ai choisi simplement l'interview qu'a donné Georges Chapoutier dans la revue L'Actualité, la dernière revue L'Actualité. Donc, vous dites deux ou trois choses qui me semblent primordiales. Donc, ce n'est pas difficile, il suffit de vous lire, monsieur. Donc, comme ça, je peux faire mon introduction facilement. Le but de cette journée est de présenter l'animalité aujourd'hui dans ses conséquences scientifiques et morales. Nous voulons mettre le grand public face à l'animal. Si nous sommes si proches, nous devons le traiter mieux. Nous devons avancer pour plus de respect. Et vous terminez par cette phrase qui est terrible. Quand on se rappelle les montagnes de cadavres d'animaux exécutés lors de l'épizootie de fièvre aphteuse sous prétexte que ça coûtait moins cher de tuer que de vacciner, on voit bien que l'animal est encore parfois considéré comme un objet, une pure mécanique, comme à l'époque de Malebranche, qu'on connaît bien, oui. Quand il tapait sur son chien, il disait, quand l'animal geignait, des phrases du genre « Écoutez, il sonne l'heure comme une horloge ». Voilà. Donc ce que je souhaiterais aujourd'hui, parce qu'on organise des journées d'études sur la bioéthique, sur les OGM, etc. Et je me suis dit, bon, on apprend beaucoup de choses, mais quand on arrive chez nous, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez des OGM dans vos assiettes, la bioéthique, vous y pensez, vous l'oubliez. Mais l'animal, qu'en faites-vous? Quand vous allez sortir de cette journée d'études, j'espère que vous allez être changé. J'espère qu'on va avoir une autre manière de voir ce monde-là qu'on nous cache. Et aujourd'hui, on va avoir des choses qu'on nous cache qui vont être certainement jouissif, mais aussi très difficile à voir, certainement. Et il faut le regarder en face. Donc c'est ce que je souhaite aujourd'hui, et je sais que je remercie infiniment nos intervenants d'être là, qui ont accepté avec gentillesse de venir un jour avant, parce qu'il y a grève de train aujourd'hui, enfin c'est formidable. Et voilà, ce que j'espère pour vous, ce que j'espère pour nous, c'est que dans l'espace Mendès France, on donne des informations avant de débattre, on débat après, vous partez avec des informations, vous en faites ce que vous voulez. Mais vous allez avoir, je pense qu'il va y avoir un choc culturel aujourd'hui. Je souhaite ce choc culturel. Donc merci encore à tous, merci à nos partenaires. Donc Monsieur Chapoutier a été très modeste, il m'a dit non, quelques lignes suffira. Donc on va essayer de ne pas être en retard. Mais enfin écoutez, vous, quand vous faites Wikipédia et d'autres bien sûr sur Google Georges Chapoutier, vous trouvez toutes les productions de Georges Chapoutier. Donc vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure Ulm, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez une double formation de biologiste et de philosophe. Et d'ailleurs il y avait un superbe article dans la revue du journal du CNRS qu'on retrouve ici et où vous dites justement que la philosophie vous habite. Et je sais aussi, je dirais peut-être pas, que vous voulez écrire des livres de science-fiction. vos spécialités sont en biologie, la biologie, la pharmacologie de la mémoire et de l'anxiété, et en philosophie, les rapports de l'humanité et de l'animalité. Donc vous étiez vraiment la personne idoine et vous avez accepté tout de suite de travailler avec nous. Je vous remercie infiniment. Donc vous avez, votre dernier livre s'intitule « Kant et le chimpanzé ». Et vous allez nous parler, le titre de votre conférence est le suivant, en morale, sommes-nous des philosophes ou des chimpanzés ? Nous vous écoutons, Georges, avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci à l'Espace Mendès France de nous permettre cette journée, à mon avis, très intéressante, vu la qualité des intervenants qui vont succéder, si j'ose dire. Merci aussi beaucoup à Anne Bonnefoy d'avoir passé, presque une année à préparer cette journée.
Avec vous.
Oui, enfin, le travail était essentiellement fait par vous. Voilà, donc je suis ravi que vous soyez tous là. Merci aux courageux qui sont... je pense que la salle va se remplir petit à petit, mais il y a des courageux qui sont venus dès le matin. Bravo, très bien. Donc, je vais vous faire une espèce d'aspect introductif. Voilà, donc le titre que je vous ai proposé est un titre évidemment un petit peu provocateur, qui est « En morale, sommes-nous des philosophes ou des chimpanzés ?» C'est bien sûr... un titre provocateur, mais qui pose une question de fond. La question, c'est quels sont finalement nos rapports, notre parenté, notre proximité avec les animaux. Et ça, c'est une question extrêmement fondamentale, presque peut-être l'une des plus fondamentales que la philosophie soit amenée à poser. Dans l'exposé qui va suivre, donc, je vais partir de considérations scientifiques, éthologiques, pour aboutir à des conclusions plus philosophiques. Et d'ailleurs, ça reproduit le thème de la journée, puisque cette matinée est consacrée aux nouveautés, aux grandes découvertes en éthologie, et un certain nombre d'orateurs qui vont me suivre vont parler de ces questions d'éthologie. Tous les ans, on trouve des choses extraordinaires sur le comportement des animaux les plus évolués, qu'on ignorait, et ça bouge très vite, et par suite, ça pose des questions morales qui seront abordées par les orateurs de l'après-midi sur ces thèmes. Dans l'exposé qui va suivre, je me propose de vous parler d'abord de la façon dont les différentes philosophies dont nous sommes les héritiers ont conçu les rapports de l'homme et de l'animal. Ensuite, je m'appuierai sur les données de l'éthologie, sur ce qu'on peut appeler des protocultures des animaux, des proto-morales, des proto-esthétiques, pour vous montrer que le fossé n'est finalement pas si grand entre l'homme et l'animal. Et puis, j'essaierai quand même dans une dernière partie, on pourra en débattre éventuellement, de préciser quels peuvent être les caractères spécifiques de notre espèce, qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine qui quand même a un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres, et comment peut-on les définir vis-à-vis d'une science qui montre la proximité de plus en plus forte vis-à-vis des animaux. Alors il y a trois grandes conceptions des rapports ou des parentés de l'homme et de l'animal. Il y a l'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. Je vais dire quelques mots de ces trois grandes conceptions. L'animal humanisé, c'est peut-être la conception qui a été la plus répandue en dehors de l'Occident, même s'il y a eu des éléments de cette approche, bien entendu, en Occident aussi. Je rappelle par exemple les procès d'animaux. Au Moyen-Âge, lorsqu'un animal avait tué un homme, il était jugé avec des avocats et quelquefois condamné, pendu, etc. Au temps de Louis XII, l'évêque d'Autun avait demandé qu'on excommunie les rats parce qu'ils transmettaient la peste. Donc il y a eu un procès avec un avocat qui s'appelait Barthélemy Chassané, qui a obtenu la grâce de ses petits clients qui n'ont pas été excommuniés. Donc vous voyez que toutes ces approches font de l'animal quelque chose d'équivalent à l'homme, une sorte d'homme en miniature. On retrouve ça, bien sûr, dans toute la littérature. Et là, c'est une approche qu'on verra demain et après-demain dans l'autre partie du colloque qui a lieu à l'université, consacrée aux approches littéraires de l'animal. L'animal petit homme apparaît dans les fables de La Fontaine, dans le roman de Renard, etc. etc. On parlait de science-fiction tout à l'heure. Je cite le très beau livre « Demain les chiens », que vous connaissez peut-être, où l'auteur imagine que les chiens succèdent aux hommes et donc prennent leur relais. Dans les expressions populaires aussi, bien sûr. Dormir comme une couleuvre, dormir comme un loir, être courageux comme un lion, etc. Dans beaucoup de civilisations, l'animal est non seulement humanisé, mais même divinisé. Ou plus exactement, il n'y a pas de coupure franche entre l'homme, l'animal et le dieu. C'est le cas de presque toutes les religions polythéistes. De quelques exemples, mais ils sont innombrables. Ganesh en Inde est le dieu des marchands, il a une tête d'éléphant. Quetzalcoatl, chez les Aztèques, était un serpent à plumes. Je ne vais pas passer sur toutes, mais vous pouvez les lire ici, les innombrables exemples qu'on trouve dans la région de l'Égypte ancienne. Je vous les décris pas, mais vous les avez ici affichés pour ceux que ça amuse. Il y a une collection extraordinaire d'assimilation de l'animal et du dieu. Soit que le dieu a un corps d'animal, soit qu'on le représente avec une tête d'animal. Tout le monde connaît le sphinx, bien sûr, mais il y en a des quantités d'exemples. Donc je vous les laisse ici, mais je ne les développe pas pour ne pas alourdir la présentation. Donc quantité d'exemples en Antiquité ancienne. Mais en Grèce, par exemple, dans la Grèce dont nous sommes les héritiers sur le plan philosophique, il y a des quantités aussi d'animaux qui interviennent, soit comme des dieux mineurs, les centaures qui sont des chevaux à torse d'homme, les harpies, des oiseaux à tête de femme, le célèbre dieu Pan qui a des pattes de bouc, etc., etc. Toujours dans cette conception de l'animal petit homme, de l'animal humanisé, un point très important, c'est la métempsychose, c'est-à-dire la croyance qu'après la mort, l'âme humaine peut être intégrée dans des corps animaux. C'est extrêmement répandu. Je rappelle que c'était une croyance très forte chez les Grecs, dont nous sommes encore une fois les héritiers philosophiques. Pythagore, que vous connaissez tous, défendait fortement la métempsychose, qui a été poussée à l'extrême par un philosophe qui est moins connu, qui s'appelle Empédocle, dont j'ai proposé ici une citation, mais qui donne bien ce que ça veut dire. Sur son propre fils, qui a changé de forme, le père lève le coup de la mort, là-bas il ajoute une prière, le méchant fou, sourd à son gémissement, il l'abat, il prépare avec, à la maison, son repas de péché. Vous voyez que l'auteur imagine ici que l'animal que je consomme, ça peut être le réceptacle de l'âme de mon fils. Vous voyez que c'est la métempsychose poussée à l'extrême. Je signale au passage, ce qui n'est pas souvent connu, que le grand philosophe Platon croyait dans la métempsychose. L'hindouisme, le bouddhisme, aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les grandes religions de l'Extrême-Orient et de l'Orient, avec toutes leurs variantes, sont fondées sur la métempsychose. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très répandu encore de nos jours. Dans les religions occidentales qui sont monothéistes, il n'y a plus de dieu conçu comme animal. Hein. Mais on trouve encore des traces métaphoriques, comme l'agneau de Dieu, par exemple. On trouve aussi l'humanisation dans les animaux utilisés par les enfants. Le nounours de notre enfance a la même fonction strictement que la poupée. En d'autres termes, l'animal prend ici, au point de vue affectif, la même place qu'une représentation de l'être humain. Enfin, et plus tristement, il faut parler de l'animal humanisé en ce qui concerne l'esclavage, où cette fois-ci, c'est l'homme qui est réduit à l'état de bête ou traité comme une bête. Et l'esclavage a été extrêmement répandu dans toutes les civilisations, y compris en Occident jusqu'à une date récente. Vous savez que l'abolition de l'esclavage n'est pas si vieille que ça. Et y compris en Occident, encore de nos jours, de façon, entre guillemets, illégale, mais il y a encore beaucoup d'esclavage, de travail d'enfants, de prostitution, etc. etc. Vous savez, ce côté noir de l'espèce humaine aussi bien que moi. Deuxième conception, l'animal-objet. Qui nous paraît aujourd'hui l'opposé de l'animal humanisé. Ça nous paraît le contraire. En fait, pendant toute l'histoire, ça n'est pas vraiment apparu comme un contraire. Parce que, comme il y avait des esclaves qui étaient traités comme des objets, ça ne choquait pas qu'on ait à la fois l'animal humanisé et en même temps l'animal objet. C'est deux conceptions qui nous paraissent à nous contradictoires, mais qui n'étaient pas vraiment contradictoires à l'époque. Cette conception de l'animal objet trouve son sommet avec le dualisme cartésien, la philosophie de Descartes. Descartes considère que le corps de l'animal comme de l'homme est un système matériel, une machine, et en cela il a raison, et en cela il est fondateur de toute la biologie qui dit on peut analyser le corps comme un système matériel, mais il crée une philosophie dualiste, comme il est chrétien, il dit mais certes, l'animal et l'homme ont un corps qui est une machine, mais l'homme échappe à ce statut parce qu'il a en plus une âme qui relève de Dieu, donc c'est le dualisme. Mais l'animal n'ayant pas d'âme, lui, il ne relève pas de Dieu, c'est une machine pure et simple. Je pense, avec des philosophes comme Kambouchner, que Descartes, étant mort jeune, n'a pas vraiment peaufiné son système. Je suis de ceux qui pensent que s'il avait continué, il aurait probablement nuancé son discours en disant que l'animal est une machine, ce qui n'est pas totalement faux, le corps est une machine, mais qu'il est doué d'une certaine sensibilité, etc. Et il se serait rapproché, je pense, de la philosophie d'aujourd'hui. Il est mort trop jeune, et c'est surtout son élève Malebranche, qui, on l'a dit tout à l'heure, dans l'exemple qu'on a cité, qui a caricaturé la pensée de Descartes en disant « l'animal est une machine, regardez, il sonne comme une horloge qui sonne l'heure ». J'aime bien cette plaisanterie, pardonnez-moi pour détendre un peu l'atmosphère, plutôt que post-cartésienne, les thèses de l'animal-objet devraient plutôt être qualifiées de mal branchées. C'est une conception qui est dominante en Occident, même si elle a eu toujours eu des oppositions. Je cite comme opposition, mais il y en a eu beaucoup, hein, l'homme de la rue n'a pas gobé les thèses de Descartes. Au temps de Descartes, voilà une citation de Madame de Sévigné, donc à l'époque même de Descartes, hein, qui dit... Des machines qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent. Allez, allez, vous vous moquez de nous. Jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire. Donc il y a toujours une opposition, même si cette conception de l'animal-machine est encore très dominante en Occident. On vous a donné tout à l'heure l'exemple de la fièvre afteuse. Je n'y reviens pas, il y a plein d'autres. Notre société mercantile fait de l'animal une marchandise et donc un objet. Et le traite comme tel. La dernière conception, qui est la plus... correct sur le plan de la science d'aujourd'hui, sur ce qu'on connaît, c'est l'animal être sensible. C'est-à-dire de dire que l'animal est un parent de l'homme sans être exactement son identique. Ça résulte donc l'évolution de la science, où on a montré une isomorphie, une parenté entre l'homme et les animaux les plus proches, dans toutes les disciplines. On montre que nous avons une parenté avec les animaux pour tout ce qui est génétique, physiologie. Génétique, vous savez qu'on partage 90% de nos gènes avec les chimpanzés. Que nous respirons comme eux, que nous avons des battements cardiaques comme eux, que toute notre physiologie correspond à celle des animaux, qu'il n'y a pas de différence majeure, notre reproduction aussi, la façon de se reproduire, que les maladies, la pathologie, les pathologies, vous savez aussi bien que moi, peuvent passer de l'animal à l'homme relativement facilement, même s'il y a quelques barrières d'espèces, mais assez poreuses. Mieux que cela, la théorie de l'évolution montre que l'animal est l'ancêtre et le cousin de l'homme. Et sauf quelques retardés aujourd'hui, personne ne met en cause la théorie de l'évolution. Donc, si vous voulez, sur le plan de la nature, sur le plan des bases physiologiques, la conception de l'animal être sensible, qui fait que l'animal et l'homme sont très proches sur le plan naturel, ne choque plus personne. Alors, restait la question de la culture. Si vous voulez, les fonctions organiques, aujourd'hui, plus personne ne considère qu'elles diffèrent fondamentalement entre l'homme et l'animal. Si je prends notre plus proche cousin, le chimpanzé, nous fonctionnons biologiquement pour lui, comme lui, de façon absolument évidente. Donc il y a des potes de jeu commun, il y a des bagages génétiques, mais même un vécu émotionnel, la façon dont on a le même système limbique, le système des émotions, on ressent nos émotions de la même manière, la façon dont une chimpanzé perçoit ses petits ne doit être pas très différente de la façon dont une femme humaine perçoit ses petits, et ainsi de suite. Donc nous sommes très très proches sur le plan de la nature. Restait la fameuse culture. Les opposants une trop grande continuité entre l'homme et l'animal, parce que beaucoup de philosophes, je veux dire la majorité a toujours essayé de montrer une coupure entre l'homme et l'animal. On dit en substance, bon certes, à des résistances, c'est pas venu tout de suite. Hein, ils ont d'abord cherché à s'opposer à la théorie de l'évolution. L'histoire de la science en sait quelque chose. Mais ils ont fini par dire, bon, il y a tellement d'arguments, il est clair que sur le plan naturel, nous sommes des animaux. Nous n'ignons plus ça. Mais nous avons une culture qui fait que nous sommes complètement différents des animaux. Cette culture, c'est quelque chose qui est le propre de l'homme et que l'animal ne partage pas. Donc l'animal est un être de nature, l'homme est un être noble, un être de culture. Alors c'est ce point-là que je voudrais argumenter en vous montrant qu'il y a toute une série d'arguments dérivés de l'éthologie qui montrent que sur ce plan aussi, eh bien finalement, il n'y a pas de coupure franche entre l'homme et l'animal. Alors, une culture, c'est un ensemble de comportements qui se propagent entre les individus sans passer par les transmissions naturelles comme la génétique, qui se transmet par imitation, par enseignement, etc. etc. Et ce que je vais vous montrer, alors bien sûr c'est lié au développement d'un cerveau, hein. C'est lié au fait que, sauf quelques rares exceptions, qu'on verra éventuellement, les cultures ou les protocultures, j'aime bien le terme de proto, même si les puristes seraient contre, parce que les puristes diraient c'est des cultures, il n'y a pas de raison que vous spécifiez l'homme, mais comme on va le voir, l'homme surdéveloppe ses cultures de façon telle, leur donne un mode d'être tel que, j'aime bien, pour préciser les choses, dire que c'est plutôt des protocultures chez l'animal, on pourra en débattre si vous voulez. Donc, ces protocultures chez l'animal, sauf exception, sont liées à la possession d'un cerveau puissant. Donc, sauf exception, ça va être surtout lié à des animaux qui sont, en quelque sorte, assez doués sur le plan cérébral, qui ont un cerveau assez développé. Et donc, c'est les animaux les plus intelligents, en gros, si je peux me permettre ce terme. Et ce sont, en gros, les mammifères, qui est un groupe assez homogène, qui va des poissons pardon, les vertébrés, un groupe très homogène, qui va des poissons aux mammifères et aux oiseaux, et surtout, bien sûr, les mammifères et les oiseaux, qui sont les animaux les plus intelligents du groupe. Et puis, il y a un groupe d'invertébrés tout à fait intelligents aussi, dont on trouve, année après année, ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croyait, ce sont les mollusques céphalopodes, comme la pieuvre, par exemple, dont on a longtemps cru qu'ils n'étaient pas très malins, et finalement, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus intelligents que même que certains vertébrés. Parenthèse sur ce point-là, et le développement de ce matin sur l'éthologie vous en convaincront, tous les ans, on trouve des choses extraordinaires sur le comportement des animaux, sur leur intelligence, notamment de ces vertébrés et de ces céphalopodes. Et que chaque année, on s'aperçoit que ces animaux sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croyait, beaucoup plus capables, beaucoup plus conscients que ce qu'on croyait. Et donc, ça pose la question morale à terme, parce qu'à la vitesse où on va, on peut se demander dans quelques temps, qu'est-ce qui va rester de ce mépris qu'on avait vis-à-vis d'eux. Donc, revenons à notre question des protocultures. Il y a un certain nombre de choses qui ont traditionnellement été considérées comme faisant partie des cultures humaines. Ce sont le maniement des outils, les règles cognitives, l'utilisation de langage, la capacité d'avoir des morales et des choix esthétiques. Et j'ai intitulé mon exposé en le focalisant sur la morale, mais on pourrait évidemment parler de chacune de ces catégories. Et donc pour chacune de ces catégories, je vous donnerai quelques exemples, bref, et je pense qu'il y aura des développements davantage par les spécialistes d'éthologie qui vont me succéder à cette table ultérieurement, montrant qu'il y a des proto-outils, des proto-règles cognitives, des proto-langages, des proto-morales et des proto-esthétiques chez les animaux. L'outil d'abord. Alors bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout chez les mammifères et les oiseaux, mais pas seulement. On va voir qu'il y a quelques rares cas d'outils utilisés par d'autres types d'animaux. Alors bon, vous avez quelques exemples ici, il y en a des tas. J'en ai pris quelques exemples ici pour... il y a les griffes, par exemple, cassent des escargots sur des enclumes à escargots, qui sont des pierres qu'ils utilisent pour ça. Les pics cassent des enclumes à noisettes. Bon, c'est deux exemples chez les oiseaux. Il y a bien sûr aussi des quantités de singes. Les chimpanzés cassent aussi des noix sur des enclumes qui sont des pierres. On en verra un exemple tout à l'heure. Certains pinsons des Galapagos ont un bec très court. Et donc, ils mangent des insectes. Ils sont obligés d'aller attraper ces insectes dans les anfractuosités des cactus. Comme ils ont un bec très court, ils prennent une épine de cactus qui est plus longue. Et ils vont pêcher avec l'épine de cactus les insectes dans les anfractuosités. Et la même épine sert ensuite à différents types de... Enfin, successivement, elle sert à attraper différents insectes successivement. Elle est réutilisée. L'outil est réutilisé. Certains oiseaux d'Australie se font des tampons colorés, ils se badigeonnent le plastron, ils vont parader devant leurs femelles pour paraître plus beaux. Ils se peignent le plastron, ils se fardent, si vous voulez. La loutre utilise son ventre comme instrument, c'est-à-dire qu'elle va tendre son ventre bien dense et casser des crustacés sur son ventre. Bien sûr, chez les chimpanzés, il y a de nombreuses utilisations d'outils. Les chimpanzés, comme beaucoup d'animaux, manquent de protéines, donc ils adorent les termites. Et pour les attraper, ils prennent une brindille, ils plongent la brindille dans la termitière, et il ramasse la termite qui s'y accroche et il la consomme. Les opposants aux cultures animales avaient dit, certains d'entre eux ont dit, oui, mais certes, il y a des outils rudimentaires. Alors, ils sont rudimentaires, effectivement, ce n'est pas des ordinateurs. Je ferais quand même remarquer que nos ancêtres, Homo sapiens, utilisaient des outils qui n'étaient pas tellement plus compliqués. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc, les opposants ont dit, mais oui, mais il n'y a pas le méta-outil. Le méta-outil, c'est un outil qui sert à fabriquer un autre outil. Donc chez l'animal, il y a peut-être des outils rudimentaires, mais il n'y a pas de méta-outils. Mais même ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Les chimpanzés qui cassent des noix sur une enclume, la pierre numéro 1, lorsque l'enclume bouge, ils vont chercher une autre pierre et ils calent la pierre avec la première. Alors, vous direz que ce n'est pas un méta-outil très compliqué, mais c'est quand même une pierre qui sert à caler l'autre, donc pierre numéro 2. Donc, c'est un outil qui sert à bloquer un autre outil. Donc, c'est un embryon de méta-outil. Alors, signalons aussi que, je l'ai dit, ça, c'est un peu une exception, que voilà ici des traits culturels qu'on peut trouver aussi, de façon inconsciente cette fois-ci, bien entendu, on pourra débattre de la conscience après, qu'on peut trouver aussi chez des insectes. Par exemple, certaines fourmis qui cultivent des champignons, qui font du terreau, certaines fourmis qui cousent des feuilles. Donc, la notion d'outil peut être développée, indépendamment des mammifères, indépendamment des vertébrés, chez des insectes, mais des insectes compliqués, des insectes sociaux qui utilisent à ce moment-là l'interaction sociale, peut-être comme un super cerveau. Enfin, il y a le problème des nids. Beaucoup d'animaux font des nids, soit pour dormir, soit pour habiter, etc. Des oiseaux, des mammifères, et donc ça aussi, c'est une forme d'instrumentation. Donc si vous me suivez, il y a l'ébauche de l'outil, l'ébauche d'instrument chez beaucoup d'animaux. La règle. Je suis un grand admirateur de Lévi-Strauss, mais là, je vais vous citer un point sur lequel il s'est trompé. Il avait dit... en substance, que le tabou de l'inceste était une spécificité de l'espèce humaine. Donc on va y revenir tout à l'heure. pour montrer qu'on a cherché à définir l'espèce humaine par les règles. On reviendra sur le tabou de l'inceste après. La règle cognitive, on la trouve chez des quantités d'animaux, essentiellement les oiseaux et les mammifères. Et puis, il y a eu un exemple de travail qui montre maintenant l'existence de règles cognitives chez les pieuvres. Alors, chez les mammifères, par exemple, chez le rat, je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire. Ça part de ce qu'on appelle un conditionnement, qui est une mémoire beaucoup plus fruste, mais ça aboutit à autre chose de plus compliqué. Vous prenez des rats, si j'ose dire, qui, pour avoir de l'eau, doivent aboutir, ils ont un système avec trois compartiments, mettons, pour simplifier, un blanc, un noir, un gris, et ils vont trouver de l'eau dans un de ces compartiments. Et on va leur imposer la règle suivante. Avant la session, le rat va être placé dans une boîte, soit une blanche, soit une grise, soit une noire, mais qui change. Et s'il a été mis dans la boîte noire, il faudra qu'il aille dans la boîte noire. S'il a été mis dans la boîte blanche, il faudra qu'il aille dans la boîte blanche, et ainsi de suite. En d'autres termes, il doit apprendre la règle. Pour trouver de l'eau dans le dispositif, je dois choisir une boîte identique à celle de la même couleur que celle où j'ai été mise juste avant. Alors, voilà une règle. Le rat apprend ça à peu près en un mois, sans difficulté. Les proto-langages des singes, des grands singes dont on va parler, sont aussi une forme de règle. Mais comment on va en parler au point de vue langage tout à l'heure, je passe dessus. Les dauphins, par exemple. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des animaux d'une intelligence assez remarquable, évidemment. Hein. Les dauphins sont capables d'apprendre quelques dizaines d'instructions gestuelles humaines. Par exemple, si l'homme lève le bras à droite, le dauphin va comprendre qu'il faut aller se nourrir. Si l'homme tourne la main droite trois fois de suite, le dauphin comprendra qu'il faut aller à tel endroit, etc. Donc, ils comprennent des instructions gestuelles arbitraires. La notion de nombre est très commune chez beaucoup de mammifères et d'oiseaux. Je pense que Dalila Beauvais, qui est beaucoup plus compétente que moi, en parlera peut-être tout à l'heure. Beaucoup d'animaux, mammifères, oiseaux, sont capables de compter jusqu'à 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beaucoup. La notion générale, par exemple, d'une étendue d'eau ou d'une forêt, peut être démontrée chez les pigeons. Le principe suivant est très simple. Vous prenez un pigeon qui peut picorer une clé pour avoir un grain de blé, par exemple, et il ne doit picorer la clé à bon escient que lorsqu'on lui présente une diapositive qui représente une étendue d'eau. Par exemple, chaque fois qu'il y a un lac ou une mer, etc., ça donnera un grain de blé. Quand il n'y aura ni mer, ni aucune étendue d'eau, il n'y aura pas de grain de blé. Eh bien, le pigeon domine ça très bien. Et quelle que soit la diapositive, c'est-à-dire que même une diapositive qu'il n'a jamais vue, il est capable de savoir que dès qu'il y a une étendue d'eau, il faut appuyer sur la clé pour avoir un grain de blé. Les jets peuvent répondre à une suite logique qui correspond à peu près à ce qu'on fait dans les tests de QI. Par exemple, vous avez un carré blanc dans un triangle, un rond noir dans un cercle, etc. etc. Et vous avez trois figures comme ça, puis vous trouvez parmi la quatrième, il y avait un choix de trois figures, celle qui correspond à la suite, celle qui fait suite, qui correspond logiquement à la suite des trois premières. Vous avez tous fait ça, je pense, dans les tests de QI. Eh bien, les G réussissent ce test assez bien. Alors, signons au passage que parmi les oiseaux, les plus intelligents, c'est les G, les perroquets, les corvidés, en gros, hein, voilà. Je pense que Dalila m'en dira plus que moi là-dessus encore. J'ai des gens plus compétents dans la salle que moi. Les pics sont capables d'anticiper la pesanteur, de voir que quelque chose va tomber, de prévoir la loi de la pesanteur, si j'ose dire, de prévoir une loi naturelle. Pour les perroquets, ici encore, je vais passer très vite parce que ça va recouper un peu ce que va dire Dalila Beauvais. Il y a une américaine qui s'appelle Irene Paperberg qui a fait des choses extraordinaires avec eux, montrant qu'ils peuvent classer les objets sur la forme, la couleur, le semblable différent, etc. etc. Et je termine sur le tabou de l'inceste sur lequel j'avais commencé pour la notion de règle. Bien, le tabou de l'inceste n'est pas du tout spécifique à l'homme, c'est spécifique aux singes, aux primates. Ça n'existe pas du tout, ni chez les souris, ni chez les chats. Les souris, les chats, ça copule allègrement entre les générations, la mère, la grand-mère, ce que vous voudrez. En revanche, chez les primates, il y a cette interdiction de l'inceste. Et quand nous, alors on arrive un petit peu au problème de morale qu'on va voir tout à l'heure, lorsque nous nous scandalisons en disant « Oh là là, c'est un inceste, c'est scandaleux », nous comportons comme des singes. On a cet effet de scandale parce que nous réagissons comme des singes. Nous serions des souris ou des chats, on ne réagirait pas du tout de la même manière. On y reviendra tout à l'heure pour la morale, évidemment. Le langage. Alors d'abord, il faut opposer ce qu'on appelle la communication et le langage. Chez l'animal, ce n'est pas un secret qu'il y a des quantités de communication, olfactive, auditive, visuelle, tout ce que vous voudrez, tactile, électrique. Donc la communication, c'est la capacité pour un animal de faire passer un message à un congénère. Chez les oiseaux, par exemple, il y a des communications très compliquées. Par exemple, il y a des chants, certains oiseaux qui chantent beaucoup, il y a des dialectes de chants. Et on peut montrer, par exemple, qu'en ce qui concerne cette communication, il y a dans certaines populations d'oiseaux, on peut montrer chez certaines espèces que la population A n'a pas le même type de chant que la population B de la même espèce. Et que ce type de façon de chanter va se propager ensuite dans les différentes générations. Donc il y a des dialectes de chant qui se transmettent de façon culturelle. Il y a des communications entre les espèces. Je cite à ce passage l'Estelle, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur cette notion de protoculture animale, qui a écrit plusieurs livres là-dessus. Et donc, entre espèces, ça veut dire, par exemple, s'il y a un signal d'alarme qui apparaît, un prédateur apparaît au-dessus d'une forêt, un oiseau crie, donne un signal d'alarme, communication, qui est compris non seulement par les oiseaux de son espèce, mais par les oiseaux d'espèces différentes. Donc, il peut y avoir des communications entre les espèces. Alors, le langage, on considère qu'il y a langage lorsque la communication fait appel à des éléments qui ne sont pas présents dans l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, la communication stricte, si vous voulez, c'est toujours du ressort du présent. Ça veut dire, si je traduis en termes verbaux, ça veut dire, attention à un prédateur, j'ai faim, j'ai soif, je veux un partenaire sexuel, ceci est mon territoire, ce sont des choses qui sont du ressort du présent. Pour qu'il y ait langage, enfin, tel que je le définis moi, parce qu'il y a 35 façons de définir le langage, mais tel que je peux le définir de façon éthologique, il y a langage lorsque l'animal est capable de faire référence à un élément passé, un élément qui n'existe plus dans l'environnement. Et alors là, les langages dans le monde animal, ils sont quand même assez rares. On n'en connaît au fond que deux, pour l'instant. Je ne jurerai pas qu'on ne trouve pas un jour des langages, des capacités au langage chez les dauphins, voire chez les perroquets, mais pour l'instant, ça n'a pas été démontré. En revanche, ça a été démontré dans deux cas, les proto-langages des abeilles et le proto-langage des anthropoïdes. Chez les abeilles, c'est très simple. C'est un proto-langage qui est réduit à sa plus simple expression, qui est, disons, un ou deux mots, c'est tout. Une abeille qui trouve une source de nourriture loin de la ruche, revient à la ruche et elle fait une sorte de danse en huit, suivie par ses congénères qui comprennent le message. Et cette danse en huit va donner indication de la direction de la source de nourriture, de la distance de la source de nourriture et peut-être même de la quantité de nourriture. Donc c'est un ou au maximum deux ou au maximum trois mots. Aucune règle de grammaire. Mais comme ça traduit un élément qui n'est pas présent dans l'environnement de la ruche lorsque l'abeille fait sa démonstration par danse, c'est une forme de proto-langage. Beaucoup plus compliqués sont les proto-langages que l'homme peut enseigner en laboratoire ou en famille à des anthropoïdes, essentiellement des chimpanzés, des gorilles. Donc ce sont cette fois-ci des proto-langages qui ne sont pas spontanément parlés, si j'ose dire, par les chimpanzés et les gorilles, mais qui leur sont enseignés par l'homme. La nuance est importante, mais elle est limitée aussi, dans la mesure où nous-mêmes, hommes, on apprend le langage que si on y met en rapport avec la société humaine. Des enfants sauvages, par exemple, enfants antilopes, enfants loups, etc., n'apprendront pas à parler s'ils sont pas mis en rapport avec l'homme. Donc la situation est un peu la même chez nous, c'est-à-dire qu'on n'apprendra pas à parler si on n'est pas mis en présence du langage. Donc si on admet cette réserve, l'homme a pu apprendre aux chimpanzés ou aux gorilles, essentiellement des femelles d'ailleurs, parce que chez ces animaux, les mâles sont habitués à faire la police et ne sont pas très doués pour les activités intellectuelles. Donc surtout des femelles qui ont été utilisées. Et donc on peut leur apprendre des proto-langages de 150 mots en gros. Alors bien sûr, ces animaux ne parlent pas, ils n'ont pas les aspects phonatoires. Donc on leur apprend des langages, soit sous forme gestuelle, le langage des sourds-muets, soit sous forme arbitraire de symboles magnétiques affichés sur un tableau, un carré noir pour une pomme, un triangle rouge pour une banane, et ainsi de suite, ou affichés sur des écrans d'ordinateur. C'est encore plus commode comme ça. Et on peut montrer donc que ces chimpanzés peuvent apprendre, en gros, 150 mots et des règles de syntaxe minimales, si, alors. Quelques exemples de ces langages, de ces proto-langages. Par exemple, l'une des premières guenons qui a appris ça avait appris les signes pour écouter, le signe pour une voiture, et le signe pour le lait. Et puis un beau jour, elle a entendu arriver la voiture du laitier et elle a fait la phrase spontanée, j'entends la voiture lait. Donc elle a créé elle-même la combinaison des... Alors, il faut bien voir, quand on parle de ces langages, c'est assez fascinant parce que ça montre que chez les chimpanzés, les ébauches de la capacité au langage. Il ne faut pas non plus dire qu'on trouve le langage équivalent au langage humain. Ça reste du niveau strict d'un enfant qui dit minou, mémé, salon, qui commence à babiller. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est quand même intéressant que le chimpanzé soit capable de ça. Un autre exemple un peu plus humoristique, un chimpanzé qui avait appris la notion de sale, ma cage est sale, et puis aussi les symboles pour être humain, etc. Puis un beau jour, il n'était pas content de son expérimentateur, il affichait sale bonhomme. Donc il a transféré le concept concret à un concept abstrait. Signalons qu'il y a au moins un cas où une femelle chimpanzé a appris ce système à son petit. Donc il y a une transmission de génération en génération. Donc, vous voyez que ça ne va pas très très loin non plus. C'est fantastique de penser que le chimpanzé peut faire ça. Ça supprime la notion de coupure radicale avec l'homme. Bien entendu, on ne peut pas dire que le chimpanzé, sur ce plan-là, soit comme un être humain, bien entendu. C'est l'ébauche de ce que peut être un langage. Et d'ailleurs, on verra ça pour l'art tout à l'heure, pour la capacité à dessiner. Les gens qui ont travaillé sur les chimpanzés, comme Prémac, suggère que le chimpanzé adulte a à peu près un psychisme, si on fait une comparaison, qui serait comparable à un enfant de 2 ans, 3 ans à peu près. Ce qui est déjà pas mal. On peut ajouter que les chimpanzés préfèrent souvent utiliser les symboles abstraits plutôt que l'objet lui-même. Donc il y a une tendance à l'abstraction qu'on retrouve chez l'homme aussi. À la morale. Alors on va arriver aux deux catégories philosophiques qui vous intéressent, la morale et l'esthétique. La morale, c'est en général lié à la vie en société. En d'autres termes, le monde animal, il est cruel, si on le prend avec des yeux humains. C'est une chaîne de dévorants et de dévorés. La morale ou la proto-morale, c'est un ensemble de règles qui vont faciliter la vie en société. Donc ça se trouve surtout chez les animaux qui vivent en société ou en famille. Hein. Je vous donne quelques exemples de racines biologiques de la morale. D'abord, il y a le tabou de l'inceste qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est commun aux primates. Voilà une racine qui va être en quelque sorte transformée par l'homme pour en faire quelque chose, pour en faire une loi morale discursive, hein, ou langagière, mais dont on trouve la trace chez l'animal. Un autre exemple, c'est la protection privilégiée des jeunes. Nous sommes tous contre la torture, mais a priori, ça va nous choquer davantage, sur un plan émotionnel, de voir un enfant torturé qu'un adulte. Alors ça, c'est typiquement une vieille règle darwinienne qui fait que des animaux qui élèvent leur progéniture vont avoir tendance à protéger d'abord leur progéniture avant de protéger les adultes. Donc c'est une règle morale qui va trouver très profondément ses racines dans l'animalité. Pour parler de cette question morale, je vais bien sûr disserter sur les travaux de Franz De Waal, qui a beaucoup travaillé sur les chimpanzés. Alors évidemment, quand on parle de chimpanzés, on parle d'animaux qui sont très proches de nous, hein, puisque des auteurs nous ont décrit comme le troisième chimpanzé. On trouve dans les troupes de chimpanzés toute une série de comportements que, avec nos yeux humains, nous interpréterions comme des comportements moraux. Sympathie, attachement, intérêt pour les jeunes, aide aux handicapés, punition, négociation, coopération, réconciliation, etc. Je vous renvoie au livre de De Waal qui a fait beaucoup de livres là-dessus. Une citation de De Waal. Le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme. Le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation intervenue dans l'évolution des primates. Donc voilà encore une racine assez forte de la morale chez les animaux. Les choix esthétiques. Je cite d'abord Michel Kreutzer, qui est un éthologiste français connu, qui dit « Le goût du beau trouverait son origine dans l'attrait qu'exercent les partenaires sexuels. Ensuite, on peut imaginer que ce goût fut secondairement étendu à d'autres domaines. » Donc il part de l'idée que le goût esthétique, c'est d'abord un choix sexuel, et puis ensuite, ça peut être généralisé de façon plus abstraite à autre chose. Les couleurs vives d'un partenaire, par exemple, qui révèlent sa santé biologique, pourraient être préférées, parce qu'elles sont à l'origine quelque chose qui a un intérêt de survie biologique. Mais ça peut être généralisé à autre chose qui n'a plus, a priori, d'intérêt biologique après. Hein. Et d'ailleurs, chez l'homme, on peut faire remarquer que, dans beaucoup de cas, le lien entre esthétique et sexualité reste très fort, quand on voit le nombre de femmes nues dans les peintures ou les sculptures, par exemple. Quelques exemples de ces relations esthétiques chez l'animal. On a pu montrer que dans les danses humaines, dans les danses de certains oiseaux, les mouvements musculaires, les séquences motrices étaient les mêmes. Donc les oiseaux et les humains dansaient de la même manière. On peut montrer, chez beaucoup d'animaux, oiseaux mammifères en gros, hein, la préférence pour les couleurs saturées, brillantes, primaires, pour les formes courbes, pour les symétries, pour les motifs musicaux comme les rythmes dans les chansons, par exemple pour les oiseaux. Je vais citer ici beaucoup l'Estelle qui a beaucoup travaillé là-dessus. Dans leur chant, les oiseaux évitent les extrêmes de la régularité mécanique comme ceux de la simple diversité aléatoire. Les baleines, enfin certaines baleines chantent beaucoup aussi, les baleines composent et bricolent leur chant avec une indéniable créativité, une grande ingéniosité. Alors, il n'y a presque pas d'œuvre d'art chez les animaux. Je disais qu'il n'y en avait pas autrefois. En fait, en cherchant bien, on trouve quelque chose qui peut y ressembler. Il y a un oiseau, les oiseaux à berceau, mais ça n'a rien à voir avec les berceaux tels que vous les entendez, vous, qui veut séduire sa femelle. Et cet oiseau à berceau, donc, il fait des sculptures. Il va planter des tiges dans le sol, il va étaler un parterre d'objets colorés en les classant par couleur, les bleus, les rouges, etc., etc. Ça fait quand même, alors ça c'est pour séduire la femelle, plus le berceau, c'est un berceau qui n'est pas un berceau, mais c'est un berceau sculpture, hein. C'est un berceau attractif, séducteur. Plus cet objet est beau, plus la femelle va trouver ce mâle intéressant. Et donc, si on veut, on pourrait dire qu'il y a là l'ébauche d'une œuvre d'art. Bon, alors donc, je reviens un petit peu sur... c'est le seul exemple que je connaisse, en gros, il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'art chez les animaux. Néanmoins, ici encore, l'être humain ne s'est pas privé de proposer aux chimpanzés des pinceaux, des crayons, pour leur proposer des dessins et des peintures. Alors ça donne des tableaux très intéressants. Chimpanzés, il y a beaucoup de tableaux de chimpanzés, qui, d'abord, c'est centré dans la page. Les chimpanzés préfèrent les couleurs vives, les couleurs brillantes, etc. etc. Ils vont préférer les courbes plutôt que les formes un petit peu heurtées, etc. Donc il y a toute une série de choses, de traits, qui correspondent énormément C'est presque pareil qu'un enfant de 2 ans qui commence à barbouiller, 2 ans, 3 ans, qui commence à barbouiller. On retrouve ici cette notion que sur ce plan particulier, les chimpanzés sont assez proches de l'enfant de 2 ans, 3 ans. Donc, il y a les ébauches, si vous voulez, ici encore, de l'activité esthétique chez les animaux. Point humoristique, les tableaux des chimpanzés se vendent très cher sur le marché de l'art humain. Signalons au passage que les archéologues ont utilisé la façon dont certains animaux utilisent des instruments, des outils, pour essayer de penser comment les hommes préhistoriques ont pu les utiliser. En particulier, il y a un appareil qui servait à performer les termitières, dont on a trouvé le rôle de la façon dont utilisaient les chimpanzés du geste similaire. En d'autres termes, il y a eu au moins un cas où on a fait l'hypothèse que un objet qu'on ne connaissait pas bien, qu'on ne voyait pas à quoi il pouvait servir, mais qui ressemblait tellement aux objets utilisés par les chimpanzés pour performer les termitières, que chez les hommes préhistoriques, on a dit c'est un objet qui sert à performer les termitières. Je terminerai sur les rapprochements de l'homme et l'animal sur le plan culturel par la notion de la conscience. Descartes et Malebranche avaient dit très clairement « Seul l'homme est conscient, les animaux n'en ont pas. » Je reviens sur cette position abominable de Malebranche. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, enfin, ce n'est même pas vrai du tout. La conscience, ça dépend de ce qu'on entend par conscience. Hein. La conscience, d'abord, il y a la conscience de son environnement, la conscience la plus simple. Hein. Celle-là, tous les grands animaux ont une conscience, ça s'appelle la conscience d'accès. Hein. Tous les grands animaux ont une conscience de leur environnement. Un chien est parfaitement capable, contrairement à ce que pensaient les cartésiens, un chien est parfaitement capable de savoir qu'à tel endroit, il y a quelqu'un sympathique qui veut donner de la nourriture, à un autre endroit, il faut éviter parce que c'est trop chaud, ou parce que, etc. Donc la conscience de l'environnement, la conscience d'accès, elle est commune à tous les grands animaux, et aucune personne sérieuse ne vient raconter ce point maintenant. Plus délicate est ce qu'on appelle la conscience phénoménale, c'est-à-dire la conscience d'être conscient. Je suis conscient de moi-même. Alors ici encore, les adversaires de la continuité entre homme et animal ont dit, ben, d'accord, il y a peut-être une conscience d'accès chez l'animal, mais la conscience phénoménale, c'est quelque chose de spécifique à l'homme. Seul l'homme, être intelligent, est conscient d'être conscient. Bien sûr, je ne nie pas le fait que l'homme est très intelligent, on verra tout à l'heure qu'il a un gros cerveau et qu'il a un cerveau probablement plus performant que les autres animaux. Néanmoins, en ce qui concerne la conscience phénoménale, il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent qu'elle existe au moins à l'état d'ébauche chez les animaux ou chez certains animaux. Ces arguments dérivent de ce qu'on appelle le test du miroir. Schématiquement, prenez les chimpanzés, ça a été surtout fait chez les chimpanzés, vous prenez un chimpanzé qui dort, vous peignez une tache de couleur sur son front à gauche, le chimpanzé se réveille, il se regarde dans le miroir et il cherche à effacer la tache du côté gauche, suggérant par là qu'il reconnaît dans le miroir que c'est lui et pas un autre chimpanzé. Donc ce test du miroir est un argument en faveur d'une certaine conscience phénoménale chez les animaux. Ça a été beaucoup fait chez les chimpanzés, ça a été fait chez un éléphant, ça a été fait chez une pie, Dalila me contredit si je dis quelque chose de faux parce que l'information vient d'elle, et donc il y a quelques animaux, apparemment c'est pas très commun, chez un éléphant et une pie, c'est-à-dire que les autres ne le font pas bien, je suis de ceux qui pensent qu'on va trouver sans problème des corvidés, des animaux intelligents qui feront ce test. Donc il y a l'ébauche d'une conscience de soi, pour toute personne qui a une conscience, qui a une habitude des animaux, ça ne choque pas du tout, hein, quand on a l'habitude à vivre des animaux, que l'animal est conscient de lui, avec tous les comportements qui sont comparables aux nôtres quand on vit dans proximité d'un animal, tous ceux qui ont des animaux ici trouveront ça évident. Ils trouveront ce que je défends là une évidence. Mais pour les scientifiques et les cartésiens, ce n'est pas une évidence du tout, il faut le démontrer. Et donc ce test de miroir permet de le démontrer. Ajoutons que, pour terminer, si j'ose dire, que la notion même de conscience peut être mise en question. Des chercheurs comme Libet, mais il y en a eu d'autres, on dit en substance, c'est bien gentil de dire que c'est important la conscience, mais la conscience, ça ne sert à rien. Et donc, ce n'est pas utile d'opposer l'homme et l'animal pour la conscience, puisque finalement, la conscience, c'est qu'un épine phénomène qui ne sert pas à grand-chose. Alors, Libet appuie ça sur des expériences. Je vais vous donner en deux mots les expériences de Libet. Je suis pour voir si je suis toujours dans les temps. Mais une bonne fois, m'arrête quand je... Oui, vous m'arrêtez quand je suis à moins 10 minutes. Sinon, je vais parler. Bon, d'accord. Donc, Libet fait l'expérience suivante sur des sujets humains. Il leur propose un bouton sur lequel ils peuvent appuyer quand ils veulent, quand ils décident d'appuyer sur le bouton. Et puis, il y a une horloge et ils disent au sujet, quand vous décidez, quand vous avez pris la décision d'appuyer, vous regardez où est l'horloge. Donc le sujet appuie sur son bouton et dit, l'horloge était à telle position. Et ce sujet, il est bardé d'électrodes, évidemment. Et Libet montre que environ, pas une seconde, mais beaucoup de centaines de millisecondes, presque une seconde, pour simplifier les choses, presque une seconde avant, le cerveau a préparé l'acte avant que le sujet ait pris la décision. Donc Libet dit, en substance, nous sommes fabriqués par des milliards d'années d'évolution qui nous ont, des millions au moins, milliards si on prend l'évolution de l'univers, qui ont fait un cerveau bien huilé, bien adapté au monde, qui fait tout pour le mieux pour nous, qui prépare nos actions et qui nous donne ensuite l'illusion qu'on les décide de façon consciente. La conscience n'existe pas. Alors, je prends cette expérience, il y en a eu beaucoup d'autres, bien entendu, vous l'imaginez bien, et toute une série de controverses. Donc, tout ça pour relativer la notion de conscience. Alors, je dis tout de suite que je ne suis pas parti dans la thèse de Libet et qu'on peut critiquer ces thèses d'une façon, je veux dire, en deux mots. C'est vrai que pour la plupart des actions simples, et il y a des cas où c'est évident, c'est admis, vous marchez sur un serpent, vous avez un réflexe sans même, avant même d'avoir perçu que c'est un serpent. Le simple fait que c'est un être qui est un peu long, etc., il y a un réflexe qui fait que vous retirez votre pied. Donc, il y a toute une série de choses qui sont préparées, et heureusement pour nous, par notre système nerveux central, avant même d'en avoir conscience. On peut montrer, par exemple, qu'on reconnaît des visages avant même d'en avoir conscience. L'expression du visage, par exemple, si l'expression est agréable, désagréable, anxieuse, etc., on peut montrer qu'on reconnaît ça avant d'avoir même reconnu la personne. Donc le cerveau fait effectivement tout un travail inconscient, utile à nous. Bon. Mais pour ce qui est des grandes décisions qu'on va prendre, par exemple, changer de religion, divorcer, etc., des décisions qui font des allers-retours dans notre cortex. Pour ça, il est clair que la conscience intervient et que Libet se trompe. En d'autres termes, je vais le dire de façon un peu plus crue, l'homme, il a un super néocortex très performant, il faut bien qu'il serve à quelque chose, n'en déplaise à Libet. Mais enfin, je vous ai cité ça quand même pour montrer que la conscience, il ne faut pas exagérer le rôle de la conscience quand même dans l'approche de la différence entre l'homme et l'animal. Alors, parvenu à ce point de notre argumentation, le développement des sciences semble réduire de plus en plus le fossé qui était supposé séparer l'homme de l'animal. Donc, notamment en morale esthétique, sommes-nous des philosophes ou des chimpanzés? Alors, ma réponse que je vais vous proposer dans la dernière partie, c'est qu'on est les deux. C'est qu'on est à la fois des philosophes et des chimpanzés. Quand on a une réponse morale, par exemple, on va trouver des racines animales, et je vous en ai donné quelques exemples, très profondes, très fortes, qu'on partage très largement avec les animaux. Mais évidemment, comme on est des êtres abstraits, langagiers, très fortement néocorticalisés, on va leur donner une formulation, une adaptation, une interprétation langagière et compliquée qui est la nôtre. On va transformer ces proto-morales animales en des morales discursives qui nous sont propres. Là, j'anticipe un petit peu. Mais donc, je voudrais quand même essayer de montrer quelle est la spécificité, qu'est-ce que c'est que la spécificité de l'homme, tout en gardant bien présent à l'esprit le fait qu'il y a une continuité, qu'on est quand même très proches parents des animaux. Mais on a des animaux particuliers, et je vais dire quelques mots là-dessus après, pour terminer. La morale, d'abord. Alors, la morale, il ne faut pas la ramener à la nature seule. La question qu'on a posée, si vous voulez, c'est qu'il y a des racines dans la nature, mais, comme le dit Anne Fagot-Largeau, le problème, c'est comment ajuster ces possibilités naturelles avec nos idées, notre façon purement humaine de traiter ces morales. Il ne faut pas non plus avoir recours à la culture seule. Le danger de recours à la culture seule, c'est la tradition. Et beaucoup de morales disent, c'est traditionnel, il est traditionnel de, alors j'ai donné quelques exemples, c'est traditionnel d'exciser les femmes, de voiler les femmes, de les laisser illitrer, la corrida, c'est traditionnel, la chasse à courre, etc., etc. C'est traditionnel de faire des brûlis dans les zones sahariennes. Il est traditionnel de, c'est-à-dire l'appel à la culture seule pour la morale, vise en général à donner la loi du plus fort par rapport à des faibles qui sont à l'occasion, des femmes, des animaux, l'environnement, etc. Berchi fait remarquer que l'irrationnel, c'est un constat et que ce n'est pas un état de valeur, et que c'est à tort qu'on en fait un état de valeur. Donc, il y a deux prétendants à la morale, et la thèse que je voudrais vous défendre, c'est que ces deux prétendants sont en quelque sorte associés, que la morale, et puis les autres concepts, l'esthétique aussi, c'est une combinaison harmonieuse de base biologique et d'activité langagière, abstraite, purement humaine. C'est la combinaison des morales humaines. Je donne quelques exemples ici. Un éthologiste, Robert Hein, qui dit « La biologie a sa part à jouer, mais sa contribution dépend d'un mariage avec d'autres disciplines. » En tout cas, le fait de dire qu'il y a des bases biologiques à la morale ne veut pas dire qu'il n'y a pas une participation des sciences humaines. Ce n'est pas une mise au rencard des sciences humaines pour autant. Le naturalisme, bien compris, laisse sa place au libre-arbitre, aux normes sociales. Ou encore, l'enracinement de la morale dans le vivant laisse sa place dans la liberté. Il faut remarquer d'ailleurs que c'est un mouvement qui est amorcé chez tous les vertébrés par rapport au reste du monde animal. Je ne parle pas des pieuvres qui sont très particulières, mais par rapport au reste des invertébrés, les vertébrés sont un groupe qui, par le développement de leur cerveau, acquiert une plus grande autonomie vis-à-vis de l'environnement, une autonomie qu'on peut dire qui est une ébauche de la liberté. C'est reconnu même par des adversaires de mes thèses, par exemple Prochiens. Prochiens reconnaît qu'il y a chez les vertébrés une évolution vers une très forte autonomie du sujet par rapport à son environnement. Donc l'homme ne fait finalement que qu'accroître, comme souvent, comme accroître de façon considérable cet effort d'autonomie qui existe déjà chez ses cousins vertébrés. Donc si vous m'accordez ça, la morale, elle est unitaire. Elle s'oppose à une morale naturaliste pure, qui serait celle des cyniques, des taoïstes, aussi de Jean-Jacques Rousseau, la nature. Mais bien entendu, elle s'oppose vigoureusement aussi aux gens qui seraient des culturalistes purs, qui défendent des morales d'antinature pure, et qui sont en gros, à quelques exceptions près, tous les grands philosophes, hein, Hegel, Hobbes, etc. Je donne quelques exemples que vous pouvez lire. Hobbes, la chosification de l'état social et la suppression de l'état de nature. Kant, la culture se situe au-delà d'eux, séparée de la nature, etc. Tous les grands philosophes ont cherché à étayer cette idée que l'homme est un être culturel et qu'il est, en quelque sorte, en démarquage complet avec la nature et l'animalité. Hein. Ça, c'est une... Alors, j'apporte... Au point de philosophique, évidemment, je ne suis pas le seul à penser ça, évidemment. À ma thèse, j'apporte quelques citations de philosophes moralistes modernes qui sont beaucoup plus raisonnables et qui vont dans ce sens. Alan Gibbard. Ce sont les forces darwiniennes qui ont façonné les préoccupations et les sentiments que nous connaissons, et certains d'entre eux sont moraux au sens large. Bien sûr, Gibbard n'exclut pas les morales humaines, mais il les rattache aux forces darwiniennes. Un aristotélicien, McIntyre. J'étais dans l'erreur quand je supposais qu'une éthique indépendante de la biologie était possible. Laurent Jaffraud, qui est un philosophe français. Une conception dynamique de l'inéité qui ne la réduit pas à un stock d'informations données à l'avance, mais l'entend comme l'orientation d'un développement. Donc il y a bien la place pour les bases naturelles et un développement qui se place par-dessus. Même chose pour l'esthétique. Je vais aller peut-être un peu vite sur l'esthétique. D'abord, on oppose l'art de l'artisan et l'art de l'artiste. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'art moderne, c'est l'art pour l'art. C'est une conception esthétique tout à fait privilégiée de la société occidentale qui commence à Kant, en quelque sorte, et qui fait quelque sorte de l'art comme quelque chose de désintégré, de séparé du reste de la pensée. Donc séparé de la nature. Alors que pour Darwin, l'art et la sensorialité passent par le coronal des sens et que le bois est une origine purement sexuelle, ce que j'ai cherché à vous démontrer tout à l'heure dans l'animalité. Alors bien sûr, il y a les deux, ici encore. Hein. Il y a un lien très fort entre les bases biologiques, le goût pour ce qui est agréable, ce qui est beau, et puis l'histoire des idées qui fait que dans l'art humain vont se greffer des choses qui pourront par exemple aboutir à la dissonance, qui n'est pas beau a priori pour nos oreilles, mais qui dans un cadre particulier va pouvoir être admis. En d'autres termes, l'esthétique rejoint la morale avec des bases naturelles et puis une histoire des capacités humaines, une histoire de l'art qui va se greffer là-dessus et qui va donner un contenu purement humain à ces bases biologiques. Et je peux montrer également, mais je vais passer un peu vite là-dessus, que finalement, l'esthétique rejoint la morale de différentes manières. Je vais donner simplement une citation d'Albert Schweitzer là-dessus. Voici ce qu'il écrit. « L'homme inculte, en contemplant un arbre en fleurs, se sent ému par le mystère du vouloir vivre qui éclate partout autour de lui. Il en sait plus que le savant qui étudie au microscope ou à l'aide d'expériences physiques ou chimiques, mais qui, en dépit de son érudition, reste cependant insensible au fait que tout ce qui vit est vouloir vivre. » En d'autres termes, il y a une conception en quelque sorte d'accès direct à la beauté par le fait qui rejoint une conception phénoménologique ou existentielle. Husserl, Sartre, et même l'expérience poétique dans le haïku japonais, où il y a un accès à la beauté par un vécu émotionnel propre. Donc, si vous me suivez, je défends une conception unitaire de la morale, qui est de lier en quelque sorte ces bases biologiques avec un vécu humain particulier, un vécu humain. On peut aussi défendre cette conception unitaire d'une deuxième manière, en analysant le cerveau humain. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Le cerveau humain est dichotomique par construction. Il y a un philosophe qui a beaucoup parlé d'économie, c'est Hume, et on retrouve dans la neurologie les thèses de Hume. On montre que, en gros, je vais très schématique, hein, l'hémisphère gauche est un hémisphère qui est très abstrait, qui est très lié à l'aspect langagier, à l'aspect maniement des concepts, et qui représente un petit peu cet aspect un peu spécifique de l'homme, que j'évoquais tout à l'heure. Puis l'hémisphère droit est un hémisphère beaucoup plus global, qui fait appel à l'imaginaire, beaucoup plus à l'émotion, et qui rejoint un petit peu la pensée animale. L'homme, parce qu'il a ces deux hémisphères assez séparés, mais qui travaillent en harmonie, hein, sauf qu'à particulier pathologique, les deux hémisphères travaillent en synergie. Et donc, on retrouve cet aspect unitaire dans le travail de ces deux hémisphères. On pourrait poursuivre cette analogie que j'évoquais et retrouver un peu la dichotomie de Hume dans la neurologie d'aujourd'hui. Ça rejoint l'aspect unitaire que j'évoquais tout à l'heure. Dernier point que je voudrais évoquer pour terminer la présentation de l'homme, un point qu'on souligne pas assez à mon avis, qui est la néoténie. Nous sommes des chimpanzés, troisième chimpanzé on l'a dit, mais des chimpanzés particuliers en ce sens qu'on a un caractère néoténique. La néoténie, c'est la capacité de se reproduire à l'état juvénile. Il y a beaucoup d'espèces qui sont capables de se reproduire à l'état larvaire. Hein. Eh bien, on a pu défendre cette thèse pour l'homme, ça a été proposé par Bolk, mais défendu par d'autres philosophes après, par Desmond Morris qui a écrit Le singe nu, livre que je vous conseille vivement, Tinland et beaucoup d'autres, qui consiste à dire en substance, l'homme, il est, c'est un élément juvénile des primates. Ça, il a une grosse tête, de gros yeux, il n'a pas de poils du tout, etc. Il a un look de fœtus de singe. Et donc, c'est intéressant parce qu'un cerveau juvénile, c'est beaucoup plus malléable, adaptable. En d'autres termes, l'homme, s'il naît comme être super intelligent, il le naît pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a un super cerveau avec des connexions extrêmement nombreuses, beaucoup plus nombreuses, infiniment plus nombreuses pour une connexion que chez cousins les chimpanzés. Mais en même temps, ce super cerveau est un super cerveau juvénile, enfantin, joueur. Et beaucoup des comportements de l'homme peuvent s'interpréter sous ce thème joueur. Nous sommes des singes joueurs. On joue tout le temps. Non seulement on joue aux jeux olympiques, on aime bien les jeux sportifs, les jeux de hasard, les casinos qui envoient chez nous, mais on joue tout le temps. Nos banquiers jouent avec l'argent de façon absolument inconsidérée. Nos hommes politiques jouent avec des tas de choses. On est un singe joueur et beaucoup de notre comportement, et y compris d'ailleurs la déficience des régulations sociales pour la violence, s'interprète comme son comportement juvénile. On est des singes juvéniles et à mon avis beaucoup des défauts s'interprètent comme ça. Il ne faut pas l'oublier quand on parle de la spécificité de l'homme et de la comparaison avec le chimpanzé. C'est pas seulement une comparaison intellectuelle, c'est aussi le fait que nous sommes des joueurs, des jeunes. Un prêtre qu'on interrogeait à la fin de sa vie, ce qu'il avait retenu sur les êtres humains, il dit, mais les êtres humains, c'est tous des grands enfants. Alors, parmi les quelques différences, j'ai combien de temps encore ?
10 minutes.
Ah bon, très bien, je suis dans les temps, c'est bon. Parmi les quelques différences qu'on peut proposer entre l'homme, c'est-à-dire le troisième chimpanzé, nous-mêmes, et puis les autres chimpanzés, et puis les autres animaux, je vais vous en proposer quelques-unes qui toutes viennent du fait qu'on a un super cerveau, bien sûr. Les différences viennent de là. En gros, l'animal vit plus que nous dans l'immédiateté. Ses outils sont des outils largement instantanés. La communication, on l'a vu, est presque toujours du ressort du présent. Il n'y a pas beaucoup de communications qui sont du type langage. Les morales sont des morales pratiques, relativement instantanées. L'esthétique, il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'art qu'on peut montrer comme ça pendant des années. C'est presque toujours du niveau du présent. Donc, l'animal vit plus dans l'immédiateté. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de sens du temps chez l'animal. Ne me dis pas ce que je ne dis pas. Un chien est capable de prévoir l'arrivée de son maître le lendemain ou même à la fin de la semaine. Un oiseau qui va migrer prépare sa migration. Bien sûr qu'il y a un sens du temps dans l'animal. Mais il est clair que l'animal vit plus dans l'immédiateté et que l'homme, au contraire, projette dans la durée. L'homme est un obsédé de la durée. C'est un obsédé de l'avenir. Ici encore, bien sûr, c'est un développement du cortex humain, évidemment. Autre différence qui est l'explosion de l'imaginaire. Encore un développement du cortex, bien sûr. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux hémisphères. Hein. Il y a en gros je caricature, hein, pardon d'être schématique pour les neurologues qui sont dans la salle. Hein. L'hémisphère gauche, l'hémisphère analytique, qui permet l'analyse du monde, l'analyse de la rationalité du monde. Et qui est la base de la science. L'homme a beaucoup admiré ça, il s'est intitulé lui-même homo sapiens, homme savant. Il s'est dit, ma caractéristique, c'est d'être un savant. Il y en aurait eu d'autres. Hein. Il aurait pu se nommer homme joueur, on l'a dit tout à l'heure, ou homme tueur, parce que malheureusement, il fait beaucoup de bêtises. Mais enfin, ce qui l'avait frappé, c'est d'être un savant. Donc, il a insisté sur l'hémisphère gauche. Mais il y a un hémisphère droit qui est très important, et qui est, en partie, le siège de l'imaginaire, de tous les possibles, le sac du possible, du virtuel, qui est très important dans l'homme aussi, sur lequel on n'insiste pas assez. L'homme développe énormément les capacités de possible, de virtuel, d'imaginaire. Ici encore, bien sûr, il y a les ébauches chez l'animal. Hein. Par exemple, la capacité de rêver, le rêve nocturne, hein, a été démontrée chez les mammifères et chez les oiseaux. Donc la capacité d'imaginer, même si on n'en a pas la preuve directe pour le cerveau éveillé, ça viendra avec l'imagerie cérébrale certainement, chez l'animal, on peut dire qu'il y a l'ébauche chez l'animal. Mais il est clair que l'homme va ultra développer cela, en quelque sorte que les capacités de développement chez l'homme sont absolument considérables. Il y a un exemple que j'aime bien citer sur un plan langagier, mais supposons qu'il n'y a pas besoin du langage, qu'on le traduise, si vous voulez, en élément non langagier, je ne vois pas un animal dire ou penser « la terre est bleue comme une orange ». Arrive à un niveau tel de contradiction, si vous voulez, de contradiction sémantique et même de contradiction de réalité, je vois guère que le cerveau humain est capable d'arriver à ce niveau d'abstraction-là. Donc, sur ce point particulier, alors bien sûr, hein, c'est un surdéveloppement du cerveau humain parce qu'on a un très gros néocortex. Toute cette question, finalement, pour revenir à nos conclusions, y a-t-il, entre l'homme et l'animal, rupture ou continuité ? En gros, Descartes proposait la rupture, Darwin proposait la continuité, les philosophies d'Extrême-Orient aussi. La thèse que je vous défends, c'est qu'il y a rupture et continuité, en insistant, bien sûr, sur le fait que la continuité, probablement, a un primat sur la rupture. Que quand on parle de rupture, quand on parle Et je vous ai donné des exemples de rupture, le fait que l'homme est capable par son cerveau de faire certaines choses que l'animal ne fait pas. Il n'y a pas de doute. Hein. Mais quand on parle de cette rupture, de cette spécificité humaine, il faut toujours savoir l'intégrer dans une continuité. Ça a des conséquences pratiques. Le fait que l'être humain, ou le troisième chimpanzé si vous préférez, possède du fait de son cerveau un mode d'être particulier, peut lui donner une certaine fierté dans le domaine de la connaissance. C'est l'homo sapiens qu'on évoquait. Cette fierté ne peut en aucun cas être transférée au comportement moral pratique de notre espèce, qui n'est guère brillant. Donc on a un gros cerveau, mais ce cerveau performant, malheureusement, on ne l'utilise pas beaucoup pour la morale. Hein. Je ne vais pas développer devant vous les guerres, les atrocités, les viols qui abondent dans notre espèce sans arrêt. Il suffit d'ouvrir les journaux. Hein. Disons que notre super cerveau ne nous sert pas beaucoup sur le plan de la morale, apparemment. Je cite ici Schopenhauer. Chacun porte en soi, au point de vue moral, quelque chose d'absolument mauvais, et même le meilleur et le plus noble caractère nous surprendra parfois par des traits individuels de bassesse. Il confesse ainsi, en quelque sorte, sa parenté avec la race humaine, où l'on voit se manifester tous les degrés d'infamie et même de cruauté. Alors, Schopenhauer est très noir, évidemment, je le cite volontairement pour montrer que, bravo, cocorico pour notre activité intellectuelle et scientifique, mais pas bravo pour notre activité morale, hélas. Ce mode d'être différent de l'homme ne lui donne pas dans le droit de. Bien sûr, il donne le droit à notre espèce de se défendre, comme les autres espèces. Alors là, il faut être ferme là-dessus, que lorsque les droits de l'homme sont menacés pour sa santé, pour sa survie, il faut bien sûr donner le primat aux droits de l'homme, n'en déplaise à quelques militants animaliers radicaux. Quand il y a conflit de droits, on donnera le primat aux droits de l'homme, parce que toute espèce défend d'abord ses droits propres. En revanche, l'utilisation abusive, omniprésente de l'animal, relève non pas du droit de l'homme, mais du droit du plus fort, et pas du tout d'un droit moral. Il faut espérer que l'espèce humaine fasse preuve, du fait de son gros cerveau dont on vient de parler tout à l'heure, d'un plus grand souci moral, d'une plus grande responsabilité à l'égard des animaux et de l'environnement. C'est ce que demandent les religions, les philosophies. Mon vœu, pour terminer, serait donc que le troisième chimpanzé, dont je vous ai parlé, puisse enfin se comporter comme un vrai philosophe. Je vous remercie. Je crois que j'étais dans les temps.
Merci à vous, Monsieur Chapoutier. Y a-t-il des questions ?
C'est bien, tout le monde est convaincu.
Oui, bonjour. J'aurais une petite question, parce que vous avez rapproché l'homme et l'animal. Et est-ce que cette démarche ne passe pas un peu à côté de la différence d'organisation sensorielle et de monde environnant de l'homme et des animaux ? Parce que, par exemple, alors s'agissant des oiseaux, je ne sais pas, mais si on met son chien devant un film, on ne voit pas la même chose que lui.
Oui, alors ça vaut pour le chien. Voilà, ça ne vaut pas pour le chimpanzé. Nous sommes sur le plan construction biologique, on est des chimpanzés, juvéniles certes. Donc ça vaut pour certains animaux. Effectivement, il y a un ensemble d'animaux qui ne perçoivent pas le monde comme nous. Alors je vais vous répondre à l'envers et vous répondre par une boutade que je fais souvent. Là, j'ai présenté l'évolution de l'intellect qui aboutit au maximum chez l'homme, mais il ne faut pas oublier l'évolution darwinienne qui fait que toute espèce est adaptée à l'environnement. Par exemple, les bactéries réussissent beaucoup mieux que nous sur le plan de la reproduction. Hein. Donc, sur le plan d'adaptation darwinienne, l'intelligence n'est qu'une forme particulière d'adaptation parmi d'autres. Hein. S'il y avait un cataclysme, les bactéries survivraient et nous pas. Donc, si vous voulez, donc ce qui nous intéresse, nous, humains, le développement de l'intelligence, doit être quand même relativisé par le fait que, sur le plan darwinien, tout être vivant réussit à sa manière. Hein. Alors, un exemple, je vais revenir à votre citation. Un exemple que j'aime beaucoup citer. Si on dit le succès dans la vie, bon, la bactérie, c'est le succès de la vie. Mais enfin, la bactérie, c'est très simple. Hein. Mais si on dit le succès dans la vie, c'est pas l'intelligence, c'est de goûter la vie, c'est le vécu existentiel. C'est ça, le succès dans la vie. Hein. Le vécu existentiel, il est beaucoup plus fort avec les sensations olfactives. L'olfaction nous plonge dans des sensations de vécu existentiel extraordinaires. Or, un chien, ça a un vécu existentiel 20 ou 30 fois supérieur en nous, au nôtre, au point de vue olfactif. Ça vit dans un monde d'odeurs absolument extraordinaire qu'on ne peut pas imaginer. Donc, si vous voulez, sur le plan de l'évolution, si j'ose dire, si je le formule comme ça, c'est le chien qui a fait le bon choix et pas nous. Alors, ça répond à votre question. Bien sûr qu'il y a des animaux qui n'ont pas la même sensorialité. Ça ne vaut pas pour les chimpanzés. Il y a des animaux qui sont tout à fait comparables à nous. Hein. Les chimpanzés, c'est sur le plan de la vision, de l'audition, ils sont comme nous. Donc, le chien ne sent pas comme nous, effectivement. Le chien, il a un univers sensoriel qui est différent. Donc, effectivement, vous avez raison. Pour ces animaux-là, il faudrait raisonner un peu différemment.
C'est-à-dire que c'est juste parce que je suis toujours étonnée de la réintroduction du vocabulaire plus intelligent, vous voyez, tout ce vocabulaire-là que par ailleurs vous nous invitez à dépasser en montrant à quel point les frontières sont modifiées, les frontières oui. classiques, bon, c'est ça.
Donc,
c'est
juste... là, je me suis excusé en disant intelligent, mais il est commode le terme intelligent, si vous voulez. Il est quand même assez évident qu'un cerveau d'un certain niveau de complexité va faire des choses qu'un cerveau moindre ne fera pas. Et ça, il est non moins... Si vous voulez, quand on veut comparer l'homme à l'animal, il y a deux dangers sur lesquels il ne faut pas tomber. Le premier danger, c'est de dire, il y a une coupure. Il y a une coupure entre... Alors ça, c'est aberrant. Ça, c'est... Bon, c'est la plus grosse partie de la philosophie a fait ça. Ils se sont plantés complètement. Mais l'autre danger, c'est de dire, c'est que puisqu'il n'y a pas de coupure, l'homme est exactement comme les autres. Or, il est clair qu'un cerveau comme le nôtre, qui manipule les entités de façon considérable, de façon prodigieuse, qui a des connexions énormément plus fortes que même nos cousins chimpanzés, ce cerveau fait des choses beaucoup plus compliquées. Et ça, il n'y a pas de doute. Et donc, pour définir l'intelligence, c'est plus compliqué déjà, parce que, comme vous l'évoquez, ça va tenir compte des registres sensoriels des animaux. Mais on peut quand même, grosso modo, et Dalila Bové me contredira tout à l'heure éventuellement, définir quand même des classes d'animaux qui sont très intelligents. En gros, ça va être les grands singes, les éléphants, les grands fauves, les ours, les corvidés, les geais, les perroquets, j'en oublie quelques-uns, les dauphins. Donc, il y a quand même quelques classes d'animaux qui utilisent leur cerveau de façon telle qu'ils font des choses assez extraordinaires. Par exemple, l'apprentissage des règles compliquées, éventuellement peut-être l'apprentissage de langage pour certains, etc. etc. C'est difficile de définir l'intelligence. Hein. C'est difficile. Par exemple, pour le chien que vous évoquiez, il y a un moment, on a dit on va définir l'intelligence par la capacité de faire des détours. Plus le détour est compliqué, plus l'animal est intelligent. Alors ça marche dans une certaine mesure. Si vous comparez effectivement une abeille qui ne fait pas le détour avec une poule qui le fait, vous aurez dirait que la poule est beaucoup plus intelligente que l'abeille. Mais par exemple, si vous mettez un chien devant un labyrinthe très compliqué hein, et un loup, le loup va faire le labyrinthe, le chien il va attendre son maître vient le chercher. Ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent. Donc il faut relativiser ça par d'autres comportements. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est très difficile de définir l'intelligence animale, mais on peut quand même, grosso modo, définir des groupes d'animaux quand même très intelligents.
Oui. Vous avez parlé de proto-culture, et je voulais vous demander si on pouvait parler de comportement proto-politique, non pas au sens de rapport de force ou d'exercice de domination collective, mais plutôt de remise en cause d'un ordre au sein d'un groupe d'animaux. Est-ce que ça existe des phénomènes de marginalisation d'individus ou de groupes d'individus qui remettent en cause l'ordre jusque-là dominant?
Alors, ça doit exister chez plein d'animaux, chez tous les animaux sociaux. Ça a été démontré, on peut dire, ici encore, Dalila résistera à ma pensée, ça a été démontré chez les chimpanzés. Il y a des chimpanzés qui ont été mis au rencard, des dominants, qui se sont suicidés. Il y a déjà des cas comme ça. Je pense qu'elle pourra m'en dire plus. On peut dire que le chimpanzé est un animal proto-politique. Maintenant, je pense qu'en cherchant bien, encore une fois, le problème de l'éthologie animale, c'est qu'elle se développe de façon considérable tous les ans. Hein. Donc, il n'y a pas eu, à ma connaissance, enfin peut-être que Dalien nous le dira, chez les oiseaux sociaux, des phénomènes, des descriptions de comme ça, où tu dis ça à ma place, s'il y en a eu. On commence à trouver. Je vous fiche mon billet que ça existe aussi chez d'autres animaux. Mais moi, je ne connais ça que chez les chimpanzés.
Non, je disais juste que France Deval a écrit un livre qui s'appelle « La politique du chimpanzé », où il décrit précisément ce genre de phénomène.
Mais encore une fois, moi, je fiche mon billet que ça existe chez d'autres animaux, même si je ne peux pas vous le démontrer.
Vous racontez aussi la très belle histoire de ce singe qui, pendant la nuit, recueille des pierres dans le zoo.
Il y a des tas d'histoires comme
c'est
ça.
C'est une histoire incroyable.
Il prépare ses pierres et il les jette ensuite sur les visiteurs.
Il les a préparées quand le zoo est fermé, le lendemain, il les balance.
Ce qui montre qu'il y a un certain sens du temps chez l'animal quand même, mais l'animal n'est quand même pas un obsédé du temps comme nous le sommes nous. Nous, on passe sans arrêt à penser quand on va mourir, etc. etc. Je pense qu'il y a un accroissement de ce phénomène chez l'homme, mais ici encore, ça mériterait d'être étayé davantage. Je vous dis des choses qui sont pas très étayées sur le plan expérimental.
De Fontenay, pardon.
Pour la question du proto-politique, Langanet a critiqué Franz De Waal en disant qu'il y a quand même une chose que les chimpanzés ne feront jamais, c'est de changer la société. Et il donne deux exemples. Premièrement, la conversion de toute une population au christianisme du temps de Constantin. Et l'autre exemple, la nuit du 4 août. Jamais les chimpanzés ne feront une nuit du 4 août. Et je crois que c'est très, très important de continuer à écouter le discours des sociologues face à certains excès, je m'avance peut-être un peu devant des primatologues, face à certains excès de la primatologie, il y a peut-être une proto-morale, il n'y a pas de proto-politique. La politique, c'est vraiment en quelque sorte le propre de l'homme.
Pardonne-moi de te contredire. Oui, pardonne-moi de te contredire. Je dirais qu'il y a une proto-politique, mais proto. Encore une fois, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, l'homme est un singe juvénile qui a une malhabilité, une adaptation, une capacité de changement hallucinante. Et bien entendu, on ne trouvera pas la nuit du 4 août, on ne trouvera pas des chambres de religion, parce que même la notion de religion chez l'animal, ça a été très mal étayé, il y a très peu de choses là-dessus. Donc, bien entendu, ne faisons pas de l'animal un homme, il y a des choses différentes. Hein. Maintenant, la notion de proto, qui est des protocultures, je pense à Deval, ça sera pas de proto-politique, ça sera pas de la politique au sens humain, bien entendu. Il n'y aura pas des partis avec des meetings, etc. etc. Ne faisons pas du chimpanzé un homme en tant que tel. Mais, si on ajoute le terme proto, moi je suis prêt à défendre une proto-politique, mais sous réserve de... Oui. Oui, ça devient des joutes terminologiques. Hein. Oui, bon. Dans tact.
Dernière question. Donc nous allons être dans les temps. Madame Chris Hersfeld, merci infiniment à vous. Monsieur Chapoutier, je vous laisse présenter notre invité.
Alors, beaucoup de nos... Il faut que je supprime ça d'ailleurs, que je ferme ce truc. Ça. Voilà. Faut fermer celui-là. Donc beaucoup de nos orateurs aujourd'hui ont des doubles formations. Il n'y a rien de mieux qu'une double formation ou un double intérêt. Chris Hersfeld est à la fois artiste, elle a fait beaucoup de choses en photographie, en peinture. Et en même temps philosophe. Elle travaille au Centre Alexandre Coiré à Paris et elle travaille aussi en liaison avec le Muséum de l'Histoire Naturelle. Son domaine, dont elle nous parlait, c'est les rapports entre les humains et les grands singes, et les rapports qui peuvent être quelquefois très compliqués, très étroits. Et donc je crois que je vais lui laisser la parole.
Alors je tiens tout d'abord à remercier Georges Chapoutier, Anne Bonnefoy et l'Espace Mendès France pour leur invitation. On va vous demander un petit peu de patience parce que les aléas de la technique font que on va devoir redémarrer les...
Tu préfères un micro sur pied ?
Non, je préfère. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup pour votre patience. Donc voici le programme de l'exposé. Et je me dois d'abord de vous préciser que je travaille avec les 5 espèces de primates anthropoïdes, à savoir les orangs-outans, les gorilles, les bonobos, les chimpanzés et les êtres humains. Je m'intéresse particulièrement aux relations entre ces différentes espèces. Au milieu du XXe siècle,
eu lieu un événement capital dans le domaine des relations entre l'homme et l'animal. Mais cet événement est resté largement ignoré. En fait, c'est surtout la dimension scientifique de ce projet et les performances liées à cet événement qui ont occupé le devant de la scène publique, laissant dans l'ombre ce moment essentiel de notre histoire avec les animaux. Dans les années 1960, pour la première fois, des humains et des grands singes ont vécu ensemble et ont formé de véritables familles. Ces communautés ont vu le jour aux États-Unis dans les années 1960, donc, dans le cadre de recherches sur la capacité d'apprentissage du langage humain par les grands singes. Georges Chapoutier vous en a un peu parlé. Et ça se faisait soit par le système de l'American Sign Language, c'est-à-dire le langage signé dit des sourds-muets, soit par des systèmes iconiques. Voici celui inventé par Prémac pour Sarah, sont des figures en plastique, ou alors les lexigrammes rendus célèbres par le bonobo Kanzi. En réalité, elles sont colorées et forment un immense tableau, vous le verrez dans la suite de l'exposé. Les scientifiques ont pensé à juste raison qu'il serait que pour favoriser cet apprentissage du langage, il serait intéressant de socialiser les grands singes dans des familles humaines, dans des structures familiales. Les grands singes sont alors entrés dans la maison de l'homme et y ont grandi comme des enfants de cette maison. D'où le titre de mon exposé, de la domestication des primates, domestication au sens étymologique. Ce titre mettant de plus en tension les pôles d'une des oppositions structurantes majeures de la pensée dualiste occidentale, en tout cas en sa tradition dominante, le sauvage et le domestique. Ces vivres ensemble, humains, grands singes, eurent une conséquence remarquable. L'intériorisation de certaines formes d'éthos humain par les grands singes. Éthos, manière d'être au monde, par les grands singes. Ils ont également permis, ces vivres ensemble, de rendre visible un monde commun essentiel, notamment perceptible dans le sens esthétique, déjà discuté par Georges Chapoutier, et dans la Funktionslust manifestée par les grands singes. La Funktionslust étant une notion phénoménologique qui signifie plaisir de la fonction, plaisir de faire ce que l'on sait bien faire. Nous y reviendrons par la suite.
Tu devrais dire un mot sur Noam Chomsky.
Je vais en parler après. Et c'est juste une introduction, en fait. Alors, que reste-t-il de ces communautés humains grands singes? Un moindre intérêt pour l'apprentissage du langage par les grands singes, la difficulté liée à ces projets et le coût de ces recherches en ont fait sonner le glas, en tout cas pour la plupart. Mais il reste des lieux où une certaine connivence s'installe entre humains et grands singes, notamment les zoos. Et j'aborderai brièvement les liens de proximité qui s'établissent entre soigneurs et primates dans les zoos. Il est évident que les cohabitations entre hommes et singes n'ont pas commencé dans les années 60 aux États-Unis avec les projets d'apprentissage du langage, mais ces cohabitations étaient peu documentées et puis il ne s'agissait pas à proprement parler d'une entrée dans les familles humaines. Je vais vous donner quelques exemples très rapidement parce que le temps me manque. Par exemple, Vosmar, au XVIIIe siècle, décrit un orang-outan qui est placé dans la ménagerie du prince d'Orange et dit que cette femelle chimpanzé adore la présence des hommes, recherche leur compagnie, mange avec des couverts et tente de se fabriquer un petit oreiller en mettant de la paille dans du tissu. Elle est également bipède, alors que vous savez que les primates anthropoïdes sont quadrupèdes. À la même époque, Buffon décrit le comportement remarquable de Joko, qui se sert lui aussi de couvert et arrive à se servir de thé. À la fin du XIXe siècle, Maclot rapporte des cas de comportement humain par les grands singes, et notamment Balou, qui faisait des corvées ménagères. Dans les colonies occidentales, il y eut aussi des cas d'adoption de primates anthropoïdes par les humains. Vous voyez ici Madame Trompette, une coloniale qui vivait en ex-Congo belge, et elle avait donc adopté ce que l'on croyait être à l'époque un chimpanzé, ça se passe dans les années 1920, il s'agit en fait de Malenga, qui a malheureusement terminé au zoo d'Anvers, en Belgique. Henri Coupin est un docteur en sciences et il assure que sa documentation est rigoureusement correcte et exacte, et il rapporte dans singes et singeries différents comportements et différentes réappropriations de comportements humains par les grands singes, notamment celui de Mafaka, une chimpanzée du zoo de Dresde. Il rapporte qu'elle avait dérobé la clé de sa cage, puis l'avait cachée sous son aisselle pour enfin parvenir à ouvrir la porte de son enclos. Ornede, qui dans les années 20 était directeur du zoo de New York, lui aussi témoigne de comportements tout à fait exceptionnels de ses pensionnaires, notamment Raja. Vous voyez que c'est un brillant conducteur de tricycle, mais il était également, on a parlé de l'utilisation de l'outil, capable de planter des clous avec un marteau, de servir de couvert, etc. Et Dohong, un autre orang-outan, avait découvert le principe du levier et l'appliquait à différentes situations, tout en analysant précisément ces situations. Alors, le curateur, un peu plus tard, dans les années 30, j'oublie l'exemple donné également par Ornade d'un gorille qui s'appelle John et qui vécut dans les années 20 à Londres. C'est sans doute un des premiers cas de cohabitation entre gorilles et humains en Occident. John avait appris à se laver, à manger proprement à table, remettait les choses en place. Et il adorait jouer à Colin Maillard ou sauter sur les lits. Raven, curateur au Muséum d'histoire naturelle de New York, rapporte les prouesses de Meshi. Excusez-moi pour la qualité de ces photos, vous la voyez ici. Elle roulait dans des autos à pédales ou sur des tricycles. Et lorsque Meshi la prenait avec lui au muséum, elle mangeait à la table des curateurs et se tenait fort correctement d'après les témoins. Elle a également été invitée par le directeur du muséum à un dîner de gala au Waldorf Astoria. Et elle a eu une conduite parfaite à table d'un bout à l'autre du dîner de gala. Ici, vous voyez une des premières primatologues cognitivistes européennes, Nadia Kotz, et son petit chimpanzé, un chimpanzé qui s'appelle Yoris, qu'elle a adopté et qu'elle a élevé avec son fils Rudy, sensiblement du même âge, c'est-à-dire un an. Vous voyez ici que quand elle pleurait, Yoris arrêtait toute activité et venait la consoler, touchant son visage, essuyant les larmes et prenant tendrement son menton dans sa main. Un tout dernier exemple, vous avez entendu parler des chimponautes américains. Ici, vous voyez Am, mais je vais vous parler du cas remarquable de Enos, un chimpanzé qui avait appris toute une série de gestes. Et puis, lorsqu'il fut en mission, lorsqu'on l'a mis en orbite, le système de punition-récompense commença à totalement dysfonctionner. Heureusement, Enos n'a pas dysfonctionné, lui, et à la grande surprise des scientifiques, il a continué à faire les gestes corrects et a parfaitement réussi sa mission. Alors, ce type de performance entraîne généralement la suspicion des observateurs qui voient dans ces savoir-faire des techniques de dressage, une répétition mécanique des gestes et des singeries qui ridiculisent les animaux et se jouent de la crédulité du public. Mais pourtant, dans le cas des primates anthropoïdes, et j'essaierai de vous le montrer, il est clair que pour tous ceux qui les côtoient, les singes ont conscience de ce qu'ils font. Ils prennent beaucoup de plaisir, éprouvent un énorme intérêt pour certaines activités humaines et une grande envie de se les réapproprier. Ils sont soumis à une forte émulation sociale liée à nos univers humains et ils s'engagent dans un réel projet, celui d'être eux aussi capables de réaliser une activité qui les intéresse. Ce processus va bien au-delà d'une imitation servile ou de tours de singes savants réalisés dans les music halls. Il ne s'agit pas de dressage, mais de partage, d'échange et d'espace commun. Comme je vous l'ai dit, à l'occasion des études sur l'apprentissage du langage par les grands singes, ceux-ci ont véritablement fait partie de la famille comme des membres à part entière. Les singes élevés dans la famille firent preuve de bien meilleure performance que les singes élevés dans les conditions habituelles de la psychologie expérimentale. C'est William Lemon, que vous voyez au-dessus, Roger Foote, c'est là, et Bruno, un chimpanzé qui a été placé dans une famille, est en train de signer le mot « arbre ». C'est un reportage réalisé pour le magazine Life. C'est donc William Lemon qui est un des premiers à avoir initié ces expériences de cross-fostering. Qu'est-ce que le cross-fostering ? C'est un processus qui consiste à faire élever des petits issus d'une espèce donnée par des individus d'une autre espèce. Lemon a lui-même adopté des chimpanzés dès 1962. Voilà son fils avec Pan et Wendy. Et il a placé des chimpanzés en 1965 dans des familles américaines. Alors, les recherches sur l'apprentissage du langage humain par les grands singes ont débuté avec la chimpanzé Washu, qui arrive en 1966, âgée d'un an, chez les Gardner. C'est Roger Foots qui continue son éducation, et ils parviennent effectivement à établir une véritable communication mutuelle par langage des signes interposés et à établir une communication à double sens. Washu avait tellement bien intégré ce langage, et voici le cas dont nous parlait Georges Chapoutier, qu'elle l'a transmis à son fils adoptif Loulis, sans intervention d'humain et en utilisant la même méthode que les humains avaient utilisée avec elle. Maintenant, je vais rapidement vous faire une galerie de portraits des différents primates anthropoïdes qui ont fait partie de ces expériences d'apprentissage du langage. Voici Nim, qui a été appelé Nim Chimpsky, en hommage à Chomsky, par Herbert Thérèse, qui a initié ce projet. À la même époque, c'est-à-dire dans les années 70, Coco, un gorille, a été éduqué par Francine Patterson, et elle est toujours abritée à l'université de Stanford en Californie. Un peu plus tard, au milieu des années 70, je parle sous la réserve sous réserve, Dalila est dans la salle et c'est vraiment une spécialiste de la question. Je pense que c'est un des seuls orang-outans à avoir appris le langage des signes, mais cette fois-ci grâce à une anthropologue américaine qui s'appelle Lynn Miles. Alors c'est assez remarquable, j'ai rencontré Lynn Miles et je l'ai longuement interviewée. Elle me disait qu'elle avait dormi avec son orang-outan Shantek et l'avait élevé jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, on lui a brutalement pris Shantek, il est retourné au Yerkesh Institute. Nous le retrouverons dans la suite de l'exposé. Et en fait, dans les années 80, un singe qui s'est vraiment montré exceptionnel, le bonobo Kanzi, on l'a découvert en même temps pratiquement que l'espèce qu'il représente, donc Panpaniscus, chimpanzé nain ou bonobo. Et vous voyez ici le tableau d'icônes qu'il a appris à manipuler. Il a tellement réussi qu'il manipule 3000 combinaisons à peu près de lexigrammes. Il est capable de parler d'objets absents et il est même capable d'inventer des termes. Quand on lui présente un objet dont il ne connaît pas le nom, il combine deux termes pour pouvoir nommer cet objet. Alors, je dois faire une petite manipulation pour passer au PowerPoint suivant. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces différents agencements, les primates s'emparèrent très facilement des habitudes et des modes d'existence humains à un degré que l'on ne l'avait pas imaginé. Pour des raisons pratiques évidentes, tous les singes parlants vont aux toilettes. Et Lynn Miles m'a raconté que quand Shantek avait été transféré dans des conditions de captivité normale, entre guillemets, pour des grands singes, il avait été absolument paniqué parce qu'il ne savait pas où il devait aller aux toilettes. Ces singes, également, pour des raisons pratiques évidentes, mangent avec des couverts, mais ça arrive aussi dans les zoos. Il y a beaucoup de singes qui aiment manger, par exemple, leur yaourt avec une cuillère. Moja fait partie du groupe de Washu dont je viens de vous parler. Elle aimait beaucoup s'habiller et se brosser les cheveux, les poils. Elle est aussi connue comme la première, un des premiers primates à avoir fait un dessin figuratif. Elle a fait ce dessin au marqueur orangé et puis a signé cerise. D'après Francine Patterson, mais certains contestent ces données, Coco en aurait fait de même, mais avec un oiseau. Elle a peint cette figure et elle a ensuite signé oiseau. Je dois aussi vous signaler que les chimpanzés du groupe de Washu donnent des titres à leurs peintures. Ils ont l'habitude de peindre. Et par exemple, un des titres, c'est Electric Hot Red. Sue Savage Rumbo rapporte qu'elle a surpris Kenzie en train de crocheter une serrure de voiture. Il semble que personne n'ait voulu lui donner les clés. Et voici de nouveau Kenzie. Vous voyez que les singes peuvent parfaitement se passer d'humains pour utiliser le langage humain qu'ils ont appris de leurs compagnons humains. Là, Kenzie est en train de se parler à lui-même par lexigramme interposé. Il n'y a pas du tout d'humain qui intervient. On voit aussi Coco avec un livre illustré. Elle est en train de se raconter l'histoire d'une certaine manière. Vous voyez qu'elle fait le signe « aïe » tout en voyant une grenouille avec des très grands yeux. Roger Fuchs raconte que les chimpanzés de son groupe, ils ont tous appris le langage des signes, conversent en ameslan, en anglais et avec des vocalisations chimpanzés. Nous retrouvons maintenant Nîmes qui suce son pouce, comme les petits-enfants humains, on pourrait dire. Mais là, c'est sur le mode chimpanzé. Vous voyez que c'est en fait le pouce de son pied qu'il suce. Et ça, c'est un élément très important, parce que s'il s'approprie nos comportements, ils le font selon leurs propres modalités. Par exemple, les chimpanzés de Roger Fuchs vocalisent et utilisent le langage des signes. Nîmes ne se contentait pas de sucer son pouce, il aimait aussi aider les chercheurs à confectionner des repas, à faire la vaisselle et à mettre des vêtements dans la lessiveuse. Enfin, quand je suis allée au Language Research Institute à Atlanta, où il y eut plusieurs singes parlants, notamment Kenzie, eh bien, les scientifiques ont donné un cahier à Pansy, une chimpanzée qui avait fait partie des programmes d'apprentissage du langage, ainsi que de quoi écrire. Et elle s'est tout de suite mise à tracer ses signes sur une feuille de papier. Vous voyez que ce sont des signes très fins, contrairement à la peinture des singes dont je vais vous parler dans la suite de cet exposé, que c'est sur les lignes qu'elle ne passe aucune ligne et qu'il y a une forme de mise en page du texte. Donc, les grands singes, dans ces dispositifs, ont eu non seulement la capacité d'acquérir ce que les hommes ont longtemps considéré comme leur apanage, le langage. On a vu que ce n'était qu'une incursion dans le langage, ils n'utilisent pas le langage comme nous le faisons. Mais ils ont également montré une extraordinaire facilité à intérioriser des bribes d'éthos humains et à établir des liens affectifs très profonds avec les humains qui les entourent. Ces cadres de vie inédits leur ont permis de témoigner de manière étonnante de leur plasticité. On connaissait depuis longtemps les prouesses imitatives des singes, mais dans le cas des singes parlants, un pas de plus est franchi. Vous voyez ici, Coco qui se prend en photo dans le miroir. Dans tous ces cas, ce sont les singes eux-mêmes qui, pourrait-on dire, font bouger la frontière. Et en se vivant et en se désignant comme humain, je vais vous en donner très rapidement trois exemples frappants. Par exemple, Washu a été éduquée pendant 5 ans parmi les humains. Et lorsqu'elle vit pour la première fois des congénères, des chimpanzés, Roger Fuchs signe « What they ?» Qui sont-ils ? Qu'est-ce que c'est ? Et Washu lui a répondu « Black bugs ». Des bestioles noires. Je pense qu'elle ne se mettait pas dans cette catégorie. Roger Fuchs dit même qu'elle avait une forme, qu'elle exprimait une forme de racisme vis-à-vis de ces chimpanzés qui n'appartenaient pas au même groupe d'elle, sans doute, dans sa tête. Un autre exemple, Vicky, qui a également été élevée dans une famille humaine, lorsqu'on lui demande de classer des photos dans deux piles, une pile avec des animaux et une pile avec des humains, classe le portrait de son père, biologique évidemment un chimpanzé, dans la pile des animaux, et son propre portrait, elle le met dans la pile des humains en compagnie d'Eisenhower et de Churchill. Vous voyez que l'intériorisation de l'éthos humain par les grands singes peut se révéler d'une profondeur abyssale. Et ce type de proximité essentielle se lie également au niveau physique, et on le sait phylogénétique. Vous voyez ici l'empreinte d'un orang-outan, et une série d'experts n'a pas pu dire que c'était l'empreinte d'un primate anthropoïde. Ils n'ont pas mis en doute que c'était certainement celle d'un humain. Avec les expériences d'apprentissage du langage aux primates, la séparation entre le chercheur et son objet est pulvérisée. L'objet d'expérimentation est devenu un enfant de la famille et l'expérimentateur son parent de substitution. J'en viens aux relations entre soigneurs et grands singes. Avec les grands singes, osons, on peut dire que là aussi, les primates entrent en quelque sorte également dans la maison de l'homme. Ils sont soumis à des rythmes humains, une médecine et des régimes alimentaires humains et adoptent des activités, des habitudes et des distractions de type humain. De plus, ils fréquentent beaucoup plus d'humains que de congénères. Évidemment, le groupe d'orang-outans de la ménagerie, qui sont 4 ou 5, voit beaucoup plus d'humains que d'orang-outans. Donc nécessairement, des liens de confiance s'instaurent entre les primates et ceux qui s'en occupent, les soigneurs. Ils établissent peu à peu des communautés de vie et des formes de compréhension mutuelle. Il faut ajouter que souvent dans les zoos, les femelles primates rejettent leurs petits, savent souvent pas comment s'en occuper parce qu'elles n'ont pas vu l'exemple de mères s'occupant de leurs petits. Et donc l'instinct maternel est à nouveau mis à mal là. Elles doivent apprendre à devenir mères. Donc ce sont les soigneurs, ici vous voyez Margot Federer avec la jeune Watana, qui s'occupent des petits, leur donnant le biberon, en prenant soin et leur distillant toute l'affection dont ils ont besoin. Donc les soigneurs constituent vraiment les premiers interlocuteurs des primates anthropoïdes dans les zoos. Et on pourrait dire qu'ils nouent une relation de confiance, de respect, presque une relation familiale avec eux. Ces tranches de vie communes et ces proximités des corps débouchent sur des connaissances extrêmement intéressantes à propos des grands singes. Et c'est notamment grâce aux soigneurs de la ménagerie du Jardin des Plantes et du Laurie Park Zoo en Floride que j'ai pu mettre en évidence que les grands singes proches des humains, certains d'entre eux en tout cas, étaient capables de faire des nœuds, alors qu'on déniait cette capacité aux grands singes en disant que c'était ces exemples de manipulation fine étaient l'apanage des hommes. Pourtant, ces savoirs des soigneurs sont souvent disqualifiés par les scientifiques, pas par tous les scientifiques, mais une majorité, en raison même de la proximité entre les soigneurs et les grands singes, alors que c'est cette proximité-là qui garantit la profondeur et l'originalité des savoirs des soigneurs. Il faut dire aussi que ce qui met mal à l'aise les scientifiques, c'est que les grands singes en zoo ont un statut un petit peu bizarre, puisqu'ils appartiennent à la fois, ils sont donnés à voir comme des animaux sauvages et ils intègrent des modes de vie humains. D'ailleurs, les directeurs de zoo ont longtemps joué sur cette biculturalité des grands singes, notamment à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Vous voyez ici l'heure du thé au zoo de Londres, il y avait une heure de l'apéritif au zoo de Détroit et un dîner de singes à New York. Ornadé, d'ailleurs, en parle. Dans les zoos, les primates anthropoïdes observent les humains tout autant que les humains les observent. Et ils se réapproprient certaines activités, savoir-faire qui les intéressent. Ou alors, ils actualisent un fonds commun anthropoïde, on pourrait dire. Ici, Victoria, un gorille du zoo d'Anvers, a tracé des signes sur la vitre de son enclos. On trouve ça très, très fréquemment dans les zoos. Et elle a donc trouvé les matériaux nécessaires à son expression. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ce sont des excréments d'oiseaux. Je vous ai parlé des nœuds de Watana. Elle les a appris en regardant ses compagnons soigneurs faire des nœuds. Le nœud fait partie du monde des humains. On ne trouve pas de grands singes faisant des nœuds dans la nature, sauf une exception documentée. Didi, qui est au Lorry Park Zoo, c'est un orang-outan, fait elle aussi des nœuds et elle utilise les palmiers, les feuilles de palmiers qu'elle a là-bas en Floride pour faire ce type d'objet tout à fait fascinant. Enfin, dernier exemple, Billy Bee est un gorille, il est décédé maintenant, très aimé, vous le voyez, des habitants d'Atlanta. Et quand il regardait la télévision, d'ailleurs, quasiment tous les primates anthropoïdes, une fois que les visiteurs sont partis, s'ennuient dans les zoos. Et donc, aux États-Unis, quasi tous ont une télévision à disposition à partir de 19h, quand les visiteurs sont partis. Vous allez me dire que c'est très américain. Mais en tout cas, ça les distrait. Ils ne s'ennuient pas pendant tout ce temps-là. Et Billy Bee, en plus, adorait Pavarotti. Et donc, quand il voyait Pavarotti à la télévision, il refusait absolument de sortir à l'extérieur, alors qu'il avait beaucoup de plaisir à être à l'extérieur. Donc, on va un peu réfléchir sur ce statut de ces animaux si proches des hommes. Vous savez que Charles Strum a travaillé avec les babouins et elle les a qualifiés de surdoués sociaux. Cette dimension est évidemment très très forte chez les primates anthropoïdes aussi. Les babouins ne sont pas des primates anthropoïdes. Le fait d'être des animaux sociaux constitue un trait essentiel des grands singes. Donc les liens noués avec les humains ainsi que l'immersion dans des milieux humains, pousse ces grands singes à adopter différentes formes de devenir humain, un devenir humain fascinant par son étendue et sa densité. Coco, à un moment, a répondu par l'intermédiaire de Francine Patterson à des internautes qui lui posaient des questions. Des habitudes résultant de la cohabitation entre humains et grands singes s'installent et se font stiftung, fondement. Les grands singes adoptent peu à peu nos codes sociaux. Et je vais vous en montrer un exemple avec la bonobo Hermine, qui, quand on arrivait dans la salle d'observation, montait sur les cordes et se mettait juste en face des soigneurs pour leur sourire. C'est une civilité humaine. Je ne sais pas si Dalila me le confirmera, mais en général, quand on découvre les dents chez les primates, c'est plutôt une marque d'agressivité ou de peur. Donc, dans ces dispositifs humains-grands-singes, des mondes s'interpénètrent, des bribes d'éthos se transmettent. Les grands-singes manifestent de la sorte un certain degré de liberté par rapport à ce qui semblait totalement fixé par la biologie. Je vous en donne un dernier exemple étonnant. Vous savez que les grands singes sont tous quadrupèdes. Or, j'ai rencontré différents singes dans les zoos qui étaient parfaitement bipèdes. Ici, l'exemple de Paki, vous voyez qu'elle est redressée, alors que leur squelette est plutôt adapté à la marche quadrupède et que ça doit beaucoup plus les fatiguer. Tech, l'orang-outan que vous avez vu au tout début de cet exposé, passe 98% de son temps en bipédie. C'est assez naturel puisqu'ils sont entourés d'êtres bipèdes, ils en adoptent le mode de locomotion et puis si vous le voyez ici, c'est beaucoup plus simple, les interactions sont beaucoup plus riches quand on est face à face. Donc les singes entourés d'humains, parfois, en adoptent les modes de déplacement. Cependant, tous ces singes que je viens d'évoquer pour vous n'intéressent généralement pas les scientifiques qui les considèrent comme des singes dénaturés, des singes qu'on utilise simplement à titre de comparaison avec les vrais singes, les singes qui vivent à l'état naturel. C'est à croire qu'il y aurait un bon singe sauvage et à l'opposé un pauvre singe captif.
un singe naturel ou vrai singe versus un singe artificiel ou faux singe, ceux qui vivent avec les humains. Il me semble, à contrario, que les dispositifs où humains et grands singes se côtoient rendent visibles certaines qualités essentielles de l'ensemble des primates anthropoïdes, groupe dont l'espèce humaine fait partie. Flexibilité des habitudes, plasticité de l'éthos, fluidité comportementale et aptitude à s'adapter à des situations nouvelles. Les grands singes actualisent en quelque sorte un potentiel lié à ce fond commun, mais, on l'a vu, selon leurs modalités propres. Cependant, il faut bien préciser que chaque espèce compte ses particularités. Ils ne sont pas nous et nous ne sommes pas eux. La difficulté réside au fond, et Georges Chapoutier l'a bien montré, pour nous dualistes, réside dans le fait de penser à la fois continuité et discontinuité. J'en viens à mon tout dernier PowerPoint et bientôt à mes conclusions. Je vais vous montrer rapidement quelques exemples déjà esquissés par Georges Chapoutier dans la question du sens esthétique chez l'animal. La proximité que je viens de vous décrire, la communauté essentielle, est également perceptible dans le sens esthétique et la Funktionslust manifestée par les grands singes. Après avoir défini cette notion, je vous en donnerai quelques exemples rapidement. Le phénoménologue belge Marc Richir développe cette notion de Funktionslust comme le plaisir spécifique ressenti par certains êtres vivants lorsqu'ils font ce qu'ils savent faire, lorsqu'ils font ce qu'ils savent bien faire. Je pense, pour ce qui est de la jouissance fonctionnelle, à l'oiseau qui prend son envol après la pluie. Je ne sais pas pourquoi ça bloque, mais ça va venir. Je pense qu'il faut le temps que ça charge. Par exemple, le dauphin qui glisse dans l'océan ou le chien qui essaie de rattraper un frisbee. Alors, ces comportements sont marqués par une certaine gratuité qui échappe à la conception fonctionnaliste et mécaniciste dominante en éthologie. Je parle des comportements, par exemple, de la Funktionslust manifestée par les grands singes quand ils peignent. Vous allez voir une photo de Congo, c'est tout à fait évident. Alors, je crois que je vais avoir besoin de notre spécialiste. Ah, voilà. Parfait. Donc, vous avez là c'est un nom barbare, mais c'est une notion, je trouve, très, très intéressante. Voilà le premier exemple. Je vous avais parlé des nœuds de Watana. Elle n'a jamais reçu ni encouragement ni récompense. Et quand elle fait ses nœuds, je vous montrerai un film pendant nos débats, elle montre une jubilation, une grande créativité et beaucoup d'imagination. Elle fait des nœuds simples, complexes, des assemblages. Elle les noue dans son enclos. Ici, vous voyez qu'elle a déchiré un t-shirt pour produire elle-même les matériaux de son nouage. Ces assemblages sont très variés. Je n'arrivais pas à suivre. Je lui donnais toutes sortes d'accessoires, mais je n'étais pas assez intelligente pour elle. C'était jamais assez nouveau. Elle allait jusqu'à faire des espèces d'installations dans sa cage. Je vous ai montré également Didi, un orang-outan qui vit en Floride. Et voyez les objets qu'elle a réalisés. C'est sa soigneuse, Lorraine Milk, qui m'a transmis ces photos. Particulièrement cet objet, ce faisceau, toutes ces longues herbes nouées de manière très symétrique avec des liens bleus que Didi avait elle-même façonné dans un t-shirt donné par les soigneurs. Je vous ai parlé de l'orang-outan parlant Chantec, et Lynn Miles, comme toute bonne mère, lui faisait faire ce qu'on pourrait appeler des colliers de nouilles, mais avec des perles un peu plus élaborées. Vous voyez le type d'objet qu'il faisait. Et dans l'ensemble des colliers qu'il réalisait, que vous voyez ici, 25% sont réajustables. Vous voyez, on peut les rendre plus grands ou plus petits. Encore un collier réajustable de Chantec. Je terminerai avec la peinture des grands singes. On a cru longtemps
qu'on avait mis en évidence la peinture des grands singes pour disqualifier l'art nouveau d'après-guerre, l'art abstrait. Et quand on s'est un peu penché là-dessus, comme Desmond Morris ou Thierry Le Nain, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une expressivité, un sens esthétique dans ces travaux. Quand vous vous promenez dans les eaux, vous ai-je dit, on trouve sur les vitres des figures comme celle-ci, soit réalisées avec les excréments des grands singes, soit avec d'autres matériaux qu'ils peuvent trouver dans leur cage, malheureusement très pauvres en éléments. Alors les singes parlants adoraient faire de l'art. Fuchs dit qu'ils adorent make art. Évidemment, quand ils le faisaient de manière assidue, ça ne donnait pas les mêmes résultats que quand on les laissait librement dessiner, comme le montre ce dessin de Nîmes. Un des grands spécialistes de la peinture des singes, c'est Congo. Il y a eu une sorte d'âge d'or des singes peintres dans les années 1950. Ça a été étudié par Maurice à travers une trentaine de cas. Et Congo a peu à peu augmenté sa concentration. Il a réussi à peindre pendant à peu près une heure à la fin de l'expérience, c'est-à-dire après 6 ans, il peignait environ une heure et arrivait à se concentrer une heure. Il a produit à peu près 400 peintures. Il s'est montré aussi soucieux de l'équilibre de ses tableaux et de la composition de ses tableaux. Il n'était pas question de lui enlever ses peintures avant qu'elles ne soient terminées. C'est lui qui décidait de cela. Et puis, il a acquis aussi une précision manuelle tout à fait remarquable. Il mettait le point ou la ligne là où il voulait vraiment les mettre. Et si on voit qu'éclate toute l'expressivité de Congo dans ce dessin-là, dans cette peinture-là, et vous verrez Congo en train de peindre, on sent le plaisir qu'il a à faire quelque chose qu'il sait bien faire. J'en viens à mes conclusions. J'ai tenté de vous montrer à travers ces différents exemples qu'il existait dans ce que nous appelons de manière très dualiste le monde naturel, des comportements et des compétences que nous attribuions naïvement, exclusivement à l'humain. Or, si nous prêtons suffisamment attention aux mondes animaux, nous découvrons que ce que nous estimions appartenir à nos vertus les plus hautes, notamment la sensibilité esthétique, la créativité, l'esprit d'invention et d'expérimentation, le besoin d'appartenir à une communauté en adoptant les codes, existe également dans ces mondes. Loin d'être anecdotique et accessoire, ces éléments sont indispensables à l'animal pour se constituer dans nos propres univers un monde au sens vonnexculien du terme. Le plaisir et l'envie de faire, le goût de nombreux individus, humains ou animaux, pour faire ce qu'ils savent bien faire, met l'accent sur ce que nous partageons avec l'animal plutôt que sur ce qui nous sépare, plutôt que sur la question sans cesse posée du propre de l'homme. Divers individus et espèces exhibent des comportements qui nous étonnent, car nous ne les attendions pas de l'animal pauvre en monde décrit par Heidegger. La difficulté réside dans le fait qu'il nous faudrait penser à la fois discontinuité et continuité, proximité et divergence. Washu, Moja, Panzi, Shantek, Nim, Kanzi, Congo et Watana, et puis bien d'autres encore, ont montré leur profond intérêt pour les pratiques d'une autre espèce et en sont devenus experts. Leur attachement envers nous, leurs comportements fascinants, leurs productions éphémères, leurs activités à la fois joyeuses et graves, nous renvoient à une communauté essentielle. Ces différents comportements nous révèlent une dimension inattendue qui ne répond pas au paradigme expérimental ni à la logique de la mesure et des modèles mathématiques. Leur devenir humain témoigne d'une sensibilité partagée, de la pulsion de vie et de la force du désir, d'un monde commun et d'une ouverture commune au monde, ce qui nous contraint de manière plus exigeante encore à mesurer l'étendue de nos responsabilités envers tous ceux que nous forçons à entrer dans nos mondes. En guise d'épilogue, voici Nîmes. Il a été élevé dans une famille humaine et il s'est retrouvé plus tard enfermé dans une cage avant enfin de rejoindre une communauté de chimpanzés, mais il est mort 2 fois plus jeune que la plupart des chimpanzés captifs. Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste ajouter que je ne cautionne ni les animaux captifs dans les zoos, ni l'idée de prendre des grands singes chez soi, et que je ne dis pas qu'il est mieux que les grands singes vivent avec les humains plutôt qu'en milieu naturel, évidemment pas. Mais je voulais vous présenter quelque chose qu'on connaît peu et faire le constat de ce que ça a existé et qu'il y a encore des communautés comme ça maintenant. Pendant les questions, je vais vous faire passer, merci beaucoup Philippe, je vais vous faire passer, je vous laisse faire, un film de Nuage de Watana. Vous verrez là la function sleuth et le sens esthétique à l'œuvre. Vous pourrez en juger beaucoup plus. Voilà.
Peut-être pendant que Watana...
Mais c'est assez long, donc peut-être qu'il vaut mieux poser
les questions.
Pendant
que Watana fait ses nœuds, peut-être on va proposer des questions pour ce superbe exposé. Je vais en poser une pour démarrer. Le fait qu'on trouve beaucoup de capacités d'apprentissage, de dessin, de langage chez les chimpanzés et les gorilles, et moins chez les orang-outans, est-ce que ça vient du fait qu'on a moins étudié les orang-outans, ou est-ce que le fait de la structure sociale rend les orang-outans un peu plus réticents à ce genre de choses?
Bon, d'abord, il est vrai qu'on a étudié beaucoup moins les orang-outans. Les chimpanzés étaient vraiment l'espèce vedette, puis plus tard, les bonobos. Mais par rapport à la peinture, je ne peux pas vraiment vous répondre qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'orang-outan. Je n'en connais pas. Mais par contre, on dit souvent que les chimpanzés ou les bonobos, alors c'est toujours la question de la proximité avec l'homme, sont plus proches de l'homme parce qu'ils ont des comportements beaucoup plus proches. Mais ce qu'on oublie totalement, c'est que les orang-outans ont un génie mécanique absolument extraordinaire. On l'a vu avec Dohong, qui avait découvert le principe du levier. En fait, c'est ce que m'a dit Lynn Miles quand elle est allée dans une forêt indonésienne. C'est une forêt comme les nôtres. On ne voit rien, pas de fruits, pas de grappes de bananes, rien du tout. Donc les orang-outans ont dû mettre au point des techniques d'extraction de nourriture extrêmement poussées. Et donc ils ont un génie remarquable, un génie mécanique remarquable. Par exemple, les soigneurs de la ménagerie du Jardin des Plantes m'ont expliqué que Nénette, la plus ancienne, elle a 40 ans aujourd'hui, déboulonne tous les boulons de saccage, et elle le planifie sur 3 jours. Et puis après, elle échange, je caricature un peu, mais elle échange les boulons contre des gâteries, parce que les soigneurs veulent absolument récupérer les boulons, sinon les orang-outans raient la vitre. Donc, je trouve qu'il y a des éléments communs aux humains, aux grands singes, différents d'une espèce à l'autre, mais il n'y en a pas plus dans une espèce ou dans l'autre. Et c'est vrai que l'expérimentation n'a pas été faite avec toutes les espèces. Et quand vous disiez, moi je trouve ça très important qu'on compare, je trouve ce type de comparaison un petit peu dénué de sens, un grand singe à des enfants de 2 ans, le problème c'est qu'on n'expérimente pas avec les singes adultes. Il faut que vous sachiez que les expérimentations, il y a un biais terrible, c'est que ce sont des jeunes singes. Donc on n'expérimente pas au-delà de 4-5 ans, surtout avec les mâles, parce qu'à un moment donné, ils deviennent trop agressifs. D'où l'idée aussi de les mettre dans nos milieux, parce qu'on les intègre dans la famille, et puis on n'est plus capable de les gérer, parce qu'ils deviennent totalement incontrôlables et dangereux. Alors par rapport à cette comparaison entre espèces, par exemple, les gorilles sont très calmes, tranquille, on pourrait dire qu'ils sont plus éloignés de nous. Mais Coco est un des exemples de grands singes qui vit adulte avec Francine Patterson. Et il n'y a pas de. Elle ne rapporte pas qu'il y ait eu de l'agressivité de la part de Coco. Alors que Kanzi, un bonobo, on dit que c'est soi-disant le plus proche de l'homme, je crois que ce sont des interprétations. Eh bien, lui, il est devenu agressif avec Sue Savage Rumbo. Franz De Waal m'a dit récemment que. Enfin, bon, il faut dire que maintenant, ils sont séparés, hein, Sue Savage Rumbo et Kanzi. D'où l'importance de responsabilité. Kanzi a toujours connu Sue Savage Rumbo, et pour des questions de programme de scientifique et d'accord entre centres, Kanzi est parti en Iowa dans un sanctuaire de grands singes. Et ils sont séparés. Même chose avec Shantek, qui a été séparé de sa mère d'adoption. Et je pense que Lynn Miles en a fait une dépression nerveuse, parce qu'on l'a... Et ça, il faut bien y réfléchir. Dans les zoos, même chose. Les animaux sont soumis à des plans d'élevage, les grands singes. Mais ils nouent des relations d'amitié avec leurs congénères, puis on les passe d'un côté à l'autre pour qu'ils se reproduisent. Je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qu'on fait avec ces animaux qu'on enferme. Déjà, les enfermer, c'est terrible. Mais ensuite, ne pas leur donner de milieu enrichi, avec beaucoup d'occasions intéressantes de faire des activités qui les passionnent. C'est aussi un grave problème.
Excusez-moi, est-ce que certains comportements, comme par exemple enlever les boulons, ne sont pas dus au fait qu'ils soient enfermés? Donc il y a aussi des comportements dans les animaux. On a vu les animaux d'élevage, ils ont des comportements de toc, mais ça porte un autre nom. Donc, est-ce que le fait de faire des gestes comme ça répétitifs n'est pas dû justement à la folie de l'enfermement, si je puis dire?
Moi, je dirais plutôt que ce sont les comportements stéréotypiques qui sont... par exemple, l'hermine que vous avez vue sourire, elle faisait ça à longueur de temps. C'est ça un comportement stéréotypique. Et puis elle se relevait. Elle faisait ça pendant un quart d'heure. Déboulonner les boulons, c'est lié à autre chose. Georges Chapoutier parlait de néotonie, de curiosité. Les anthropoïdes aussi sont comme ça, sont curieux. Et ce qui est très important, et tous les soigneurs vous le diront, c'est le besoin de nouveauté des grands singes. Donc, comme ils ont, par exemple, la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est un zoo urbain. Donc, c'est fixé, on ne peut pas le changer. Et donc, ils s'ennuient prodigieusement. Alors, je suis très anthropomorphique, là. On pourrait en parler, c'est un autre thème extrêmement intéressant que Portman a très, très bien traité par rapport à ceux qui font un interdit absolu de l'anthropomorphisme. Et dans ces cages, moi j'ai une association qui promeut l'enrichissement. On constate qu'ils sont là, on ne peut pas les faire sortir, ils sont habitués à ces milieux. Au moins, enrichissons leur milieu. Nous avons même un projet avec Dalila de mettre des écrans tactiles, etc., pour qu'ils ne s'ennuient pas. Parce qu'à longueur de journée, ils n'ont pas de nouveauté. La cage ne change pas, il n'y a pas le souffle de l'air, les étoiles qui apparaissent dans le ciel, une branche qui se casse, des espèces différentes. Maintenant, ce qu'on fait dans certains zoos, par exemple en Californie, c'est de mélanger, par exemple, les orang-outans et les siamangs, de mélanger différentes espèces pour qu'au moins... Mais eux aiment la nouveauté quand ils sont dans le milieu naturel. Ils découvrent constamment des espaces différents, des climats différents, etc. Et dans leur cage, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, comme déboulonner tous les boulons de leur cage. Et donc, il faut leur donner vraiment de quoi faire des choses intéressantes pour eux.
Et ils développent des comportements obsessionnels compulsifs, je crois qu'on peut dire le terme, comme l'ont fait certains humains dans les camps
de concentration. Oui, et même, s'arrache, par exemple, de l'over-grooming, ils s'arrachent les poils, des choses comme ça.
Bonjour.
Bonjour.
Tous les exemples que vous nous avez donnés sont des exemples de singes qui ont incorporé des cellules familiales humaines.
Est-ce oui, que... sauf ceux des zoos. Dans les zoos, non.
Mais en fait, c'était plutôt l'exemple inverse que je voulais vous demander. Est-ce qu'il existe des humains qui ont fait le trajet inverse, c'est-à-dire incorporer des groupes sociaux en milieu naturel?
Alors, en quelque sorte, mais pas tout à fait. Vous connaissez les trois anges de Lequet, Jane Goodall, Diane Fossé et Birute Galdikas. Et je dirais qu'il y a un devenir humain des grands singes et un devenir singe des humains. Parce que je crois que le devenir espèce, ça n'a pas de sens. Espèce, c'est l'interdit de Derrida sur le mot animal, animaux. Ce qu'a fait Jane Goodall, c'est d'observer ces grands singes et elle a réduit la distance entre eux et elle. Et par exemple, elle dit qu'elle a appris à être une bonne mère en observant Fifi, je crois. Je ne suis pas sûre de laquelle c'était, mais en tout cas, en observant un d'un chimpanzé, elle était très jeune, hein, Jane, à ce moment-là, elle avait une vingtaine d'années, et elle a observé ce que faisaient les chimpanzés avec leurs petits. Les communautés africaines, certains Africains vont vous dire qu'ils ont observé, par exemple, qu'une mère chimpanzé qui allait accoucher regardait qu'elle prenait une certaine plante, puisqu'il y a toute une pharmacopée des chimpanzés, pour diminuer les douleurs, semble-t-il. Eh bien, certains peuples africains ont pris l'habitude de manger les mêmes feuilles, puisqu'il y a la même compatibilité. Donc, ce n'est pas une intégration d'éthos. Mais il y a des emprunts de part et d'autre. Et les soigneurs, je pense, intègrent une part d'éthos de leur grand singe. Par exemple, il y a une dame vraiment très intéressante, Jane, qui travaille au Louisville Zoo, et elle me dit, moi, je vois tout de suite quand telle femelle orang-outan va avoir ses règles. Parce qu'elle sent comment est cet orang-outan. Et puis, il y a ce fond commun de primates anthropoïdes et de femmes, elle sait très bien qu'à ce moment-là, il faut la laisser tranquille, etc. Elle a appris, elle a compris comment fonctionnait cette femelle qui s'appelle Bella au Louisville Zoo. Donc, ils intègrent, ils sont obligés pour soigner leurs animaux d'intégrer une part de leur mode de fonctionnement, leur mode d'existence, mais pas au niveau des singes que j'appelle moi conciliants, des singes qui entrent dans les familles humaines, pas au même niveau. C'est nous qui les avons forcés à entrer dans nos mondes.
Oui.
se fait-il qu'il n'y ait presque que des femmes dans la primatologie?
Alors ça, c'est une excellente question. Alors au tout départ, c'est Louis Lequet qui a commencé cela. Et il s'est dit, bon, d'abord il y a des questions hormonales. C'est-à-dire qu'une femme est moins menaçante pour le mâle dominant ou les mâles dominants d'un groupe qu'une femme. Et je vous assure que les grands singes reconnaissent hommes et femmes et savent même quand les femmes ont leurs règles. Je dois vous dire une toute petite anecdote pour vous dire la communauté entre humains et grands singes. À Plankendal, j'ai une amie qui était chercheuse là-bas et qui est restée très longtemps. Eh bien, à la fin de son étude des bonobos dans le parc zoologique de Plankendal, près de Malines en Belgique, elles avaient leurs règles en même temps, toutes les femelles bonobos et elles. Donc, et tous les flamands en Belgique savent que ça existe grâce à cet exemple. Mais je reviens, je reviens à votre question. Donc, la question d'être femme. Alors, à l'époque, les femmes étaient dressées à être des femmes, comme faire Simone de Beauvoir. Et donc, pour lequel elles avaient plus d'attention, plus de patience pour observer les grands singes. Mais surtout, à l'époque, c'était l'époque des premières études de terrain à long terme, c'est-à-dire qu'on restait très longuement sur le terrain. Il y en avait eu d'autres avant, mais courtes. Or, les carrières se faisaient dans les muséums et à l'université. Et donc, les hommes n'étaient pas du tout prêts à sacrifier leur carrière pendant des années pour aller sur le terrain observer des singes. C'est tout simplement cela. Et il y a quelques autres raisons, mais ça, je pense que c'est une raison majeure. Et donc, Lequet aimait beaucoup les jeunes femmes. Ça, on ne le dit pas, mais il avait un goût pour les femmes et il s'entourait de femmes. Ça a créé pas mal de problèmes de couple. Mais toutes tous les gens qu'il a fait venir sur le terrain, c'était bien des femmes.
Bonjour. Vous avez parlé donc des animaux qui sont intégrés à une cellule familiale. Qu'est-ce qu'il en est par la suite de leur relation avec leurs congénères ?
Ah, ça, c'est très intéressant parce qu'en général, ils sont avec des congénères qui ont eux aussi intégré des cellules familiales. Et par exemple, l'exemple le plus éthique de singes parlants qui ont poursuivi leur vie avec des humains, c'est celui du groupe de Washoe. Je vous ai montré Washoe et Roger Fouts. Les Fouts ont mis un point d'honneur à élever de manière décente, à continuer à garder leur chimpanzé de manière décente, c'est-à-dire dans des lieux extérieurs et des cages intérieures très bien aménagées. Et ils ont peu à peu diminué les contacts entre humains et grands singes. Et dans ces milieux, comme ils ont été élevés de la même façon, il n'y a pas de problème de relation entre singes puisqu'ils ont connu un peu les mêmes expériences. Mais je ne voudrais pas vous répondre quelque chose que je ne connais pas. En fait, je ne sais pas très bien. Mais je sais en tout cas que Shantek, d'abord, a été arraché à la cellule familiale qu'il avait formée avec Lynn Miles. Il a été mis à Yerkesh, au Yerkesh Institute à Atlanta, enfin au Language Research Institute, et puis au zoo d'Atlanta. Et moi, je l'ai vu là, tout à fait isolé. Il faut vous dire que les orang-outans, en plus, sont des espèces semi-sociales, c'est-à-dire qu'ils vivent très isolés, parce qu'il n'y a justement pas beaucoup de ressources alimentaires, et donc ils vivent... C'est le seul exemple dans les cinq espèces où ils vivent plus ou moins isolés. Donc, je crois que c'est un peu compliqué pour eux, sans doute, je ne sais pas. J'ai aussi l'exemple de Watana. Watana était élevé par des humains, et c'était le singe préféré de Margot Federer, que j'ai rencontré en Allemagne, à Stuttgart. Et elle a le plus grand mal à vivre au zoo. Elle, ce qu'elle a envie d'avoir, c'est des relations avec les humains. Et vous voyez, le fait de les intégrer dans des familles, c'est vraiment prendre une responsabilité énorme, parce qu'après, on ne peut plus continuer à le faire et eux en souffrent terriblement. Watana, j'ai été la revoir, elle n'est plus à la ménagerie du Jardin des Plantes, elle est à Appenheul maintenant, en Hollande, et elle est terriblement, enfin elle est toujours apathique, enfermée dans son coin, parce que je crois que ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui donne toutes sortes de choses, comme des écrans tactiles, des matériaux pour faire des nœuds, des bricolages et tout ça, et ça dans les zoos on ne le fait pas, ce sont des animaux sauvages, il faut montrer des orang-outans, des chimpanzés, des bonobos, etc. Mais pendant ce temps-là, elle, toutes ses capacités, elle reste inoccupée, elle ne peut pas faire ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et donc, ça ne se passe pas tellement bien avec ses congénères, mais ils ont une telle intelligence sociale, une telle adaptabilité qu'ils s'intègrent dans les groupes. Mais à mon avis, il reste une sorte de nostalgie de ces moments avec les humains. Et ils sont vraiment passionnés par les humains. Les orang-outans de la ménagerie du Jardin des Plantes, quand quelqu'un répare quelque chose près de leur cage, ils regardent tous. Les bonobos, même chose. Nous sommes en quelque sorte des leaders charismatiques pour eux. C'est-à-dire qu'on est ceux que l'on regarde. Pas parce qu'on fait des choses particulières, mais parce qu'on est des êtres particuliers.
Une expérience me fascine beaucoup, où j'ai l'impression que c'est le singe qui est le leader charismatique. L'expérience qui a été faite au Japon il y a 2 ou 3 ans, sur écran, donc il y a 9 chiffres qui s'affichent de façon aléatoire, et dès qu'ils touchent avec le doigt le premier, les autres disparaissent. C'est-à-dire que...
Non, c'est autre chose. C'est le fils du singe Aï, et c'est Matsuzawa qui fait ce genre d'expérience. Ouais. Isabelle Stengers dit, qu'est-ce qu'on peut faire à des singes lorsqu'on leur donne des récompenses? Là, en fait, c'est un écran tactile, et vous avez raison, il y a les chiffres de 1 à 9. Le singe a appris à les toucher dans l'ordre de 1 jusqu'à 9. Et il le fait beaucoup plus rapidement que les humains,
J'arrive à 2, simplement.
Comment?
J'arrive à 2 ou 3, c'est fou. Quand même.
Mais donc, ils le font très rapidement. Matsuzawa dit que c'est pour 2 raisons. D'une part, chez les singes, la question du langage ne prend pas autant d'espace, même chez les singes parlants, que chez les humains. Donc, ils n'ont plus ces réflexes rapides. Et d'autre part, quand on est sur un arbre fruitier, il faut vite prendre les fruits avant que l'autre ne les prenne. Donc, c'est ce que dit Matsuzawa. Hein, je ne cautionne pas du tout. Et donc, cet écran, la difficulté... J'ai le clip vidéo, je pourrais vous le montrer si on avait le temps, mais bon, je peux le préparer pour tout à l'heure. En fait, la difficulté supplémentaire, c'est sur cet écran de 1 jusqu'à 9, de cacher certains chiffres. Donc, on lui affiche tous les chiffres, il sait où ils sont, puis on les cache pour certains. Par exemple, on cache le 3, on cache le 5. Eh bien, il arrive à remettre dans l'ordre tous ces chiffres beaucoup plus vite que les humains. Ses performances sont meilleures que les humains. Et je pense que tu connais cette expérience, Dalila. Et enfin, peut-être que tu en parleras après. Et donc voilà, mais je ne sais plus quelle était votre question par rapport à ça.
C'est quelque chose de fascinant, j'aimerais bien... Oui, je voulais savoir pourquoi ils ont des capacités que nous, on n'a vraiment pas du tout. Est-ce que c'est de mémoire photographique qu'ils ont? Je ne sais pas. Mais moi, chaque fois, je suis complètement... Je ne bouge pas, je suis...
Je vous ai donné l'explication de Matsuzawa, mais je dirais que ce n'est pas vraiment mon domaine, tout ce qui est sciences cognitives, etc. Donc, tu dis?
Ce qu'on ne dit pas souvent quand on cite ces expériences, c'est la quantité d'entraînement qu'ont eu les chimpanzés par rapport aux humains standards avec lesquels ils sont comparés, qui sont vous, moi, des étudiants, etc., qui font la tâche pour la première fois ou qui essayent pendant 10 minutes. On voit ça tous les jours avec les jeux électroniques. Vous avez votre fils de 10 ans qui va faire des choses qui paraissent incroyables, mais parce qu'il y passe des heures chaque jour. Donc avant de dire que c'est vraiment des capacités qui existent que chez les chimpanzés ou que chez les jeunes chimpanzés, il faudrait donner le même taux d'entraînement à tout le monde. Et là, on ne trouverait peut-être pas le même résultat.
Entièrement d'accord. La dernière question.
Oui, vous nous avez présenté un certain nombre d'acquisitions donc, par les singes au contact de communautés humaines. Est-ce que l'expérience a été faite de remettre ces singes dans des collectivités de singes et d'assister à la transmission de ces acquis d'un singe à d'autres singes de la communauté dans laquelle il serait placé, quoi.
Je vous en ai donné 2 exemples. Donc oui. Hermine, avec son sourire, elle l'a transmis à tout le groupe et donc il se sourit maintenant. Il y a l'exemple aussi du langage des signes. Vous savez qu'on apprend ce langage par molding, c'est-à-dire qu'on montre plusieurs fois le geste et puis on façonne, on met la main dans la bonne position. Eh bien, Washu a transmis à Luli, son fils adoptif, le langage des signes, American Sign Language, sans l'intervention d'humains. Ils se sont vraiment interdits de faire des langages des signes pendant tout ce temps où Luli s'était mis en contact avec Washu. Pendant 4 mois, ils n'ont absolument pas signé. Et donc, Loulis a appris le langage des signes par Washu, qui lui faisait faire le bon mouvement exactement comme elle l'avait appris. Et encore une chose remarquable, c'est que quand Loulis, donc il était habitué à apprendre ce langage humain par le biais de sa mère, il ne voyait aucun humain faire cela. Et donc, la première fois que les humains ont recommencé à faire des signes, puisqu'il était acquis que Washu avait bien pu transmettre ce système de langage sans l'aide des humains, eh bien, l'Ulysse a été complètement interdit. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces humains qui utilisent un langage de singe ? Et il a arrêté, il ne voulait plus regarder les humains en train de signer. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Alors, bon, deux réponses. Il y en a une qui n'est pas vraiment une réponse à votre question. Ces singes qui sont proches des humains et qui s'adaptent à leur milieu, souvent il y a des bonnes âmes qui se disent, mais il faut les remettre dans la nature. Ben, pas du tout, parce que Nénette, elle est au zoo depuis qu'elle a 3 ans et demi. Si on la remettait dans la nature, elle ne pourrait pas, elle ne saurait pas. On croit que les singes, instinctivement, ils savent où choisir, aller chercher la nourriture. Ils connaissent les fructifications saisonnières. Ils savent quels fruits on peut manger, quels fruits on ne peut pas manger. Ils savent se débrouiller dans la nature. Pas du tout. Ce n'est pas instinctif, c'est aussi une partie de la culture. Ils apprennent à utiliser les ressources de leur environnement, à vivre dans cet environnement. Ils ont également une longue enfance, les singes, les primates anthropoïdes, tout comme nous. Et donc, ils doivent apprendre à vivre dans un milieu donné. Or, Nénette, par exemple, qui a 40 ans et qui a vécu 37 ans à la ménagerie du Jardin des Plantes, si on la remettait dans un groupe d'orang-outans en milieu naturel, d'abord, elle ne saurait pas se débrouiller. Peut-être que l'intelligence sociale permettrait qu'elle se débrouille avec ces orang-outans, socialement parlant, mais à mon avis, elle ne survivrait pas très longtemps. Donc, ce projet, souvent, les projets de réhabilitation des grands singes ne fonctionne pas. C'est pas possible de remettre un singe qui est resté très longtemps en milieu captif dans un milieu naturel. Et d'autre part, c'est le seul mode de c'est la seule transmission documentée que l'on connaisse. C'est Washu qui apprend le langage des signes à Loulis. Peut-être que Dalila connaît d'autres exemples. Mais
une dernière question. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Notre amie ici présente est partie du muséum, du zoo du muséum. Que ce sont des programmes qui sont mis en place. Comment on peut... Bon, vous dites qu'elle n'est pas bien maintenant, mais je pense que ça arrive aussi à d'autres
vous
singes.
Savez,
pourquoi on les change de place ?
Dans les zoos, on ne dit pas qu'une femelle orang-outan est enceinte. On dit qu'elle est pleine. Ce sont des termes d'élevage. On les élève. Il y a un fonds de ce qu'on appelle founders. Ce sont des vrais singes qui viennent du milieu naturel. Et on les disperse dans les eaux pour qu'il y ait un pool génique suffisamment varié. Et donc, Watana, c'est terrible son histoire. Elle est élevée par des soigneurs jusqu'à 3 mois à Anvers. Elle est transférée à Stuttgart. Là, elle est adorée par Margot Federer. Puis, elle est transférée à 3 ans à la ménagerie du Jardin des Plantes. J'ai essayé d'écrire son histoire, d'ailleurs. Et puis là, elle noue des liens avec Nénette, Toubo, Dayou et Solok. Et puis, tout à coup, on la transfère. Vous savez, tous ces singes dans les eaux sont notés dans des studbooks. On voit quels sont les parents, etc. Ce sont des plans d'élevage. Ça, on ne le dit pas. Et donc, on les transfère selon les gènes. C'est les gènes qui priment là aussi. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment défendre cette idée-là. Bon, ils sont dans les eaux, on n'en est pas content, mais au moins, aménageons les choses. Par exemple, les Américains, à San Diego, ils donnent une plaine africaine énorme à leurs animaux. On peut en faire un tour seulement en train. Respectons leurs amitiés, respectons leurs liens, mais c'est quasiment pas possible dans le cadre de ces projets d'élevage, de ces plans d'élevage.
Merci beaucoup, madame. Merci, on fait une petite pause de 10 minutes. De toute façon, on est en retard. Merci à vous.